micro-ondes.
Une émission qui vous tient à contre-courant.
Tous les premiers dimanches du mois.
On vous parle de sujets brûlants.
Mais c'est pas de réchauffer.
Une émission qui s'attaque au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales. À l'intérieur, pas de la lutte, que de la lutte.
De midi à 14h.
Sur News FM 101.2.
Bonjour, nous sommes contents de vous retrouver après cette interruption d'été qui s'est un peu prolongée. Et donc, bienvenue à Micro-Ondes, que vous retrouverez à nouveau tous les premiers dimanches du mois, de midi à 14h. Alors, vous pouvez l'avoir comme vous êtes peut-être, au 101.2 ou alors sur Internet, Radio News FM, Micro-Ondes. Et on peut aussi nous réécouter à la fois sur le troisième dimanche à midi, d'une part, et puis d'autre part, c'est podcasté, donc toujours sur le site Internet de Radio News FM, et vous allez à Micro-Ondes. Alors, aujourd'hui, on compte aborder plusieurs sujets, dont deux importants là, qui vont durer une heure et demie. D'abord, la lutte des sans-papiers de la CGT avec la présence d'invités. Et ensuite, des membres de l'association gabonaise de Grenoble viendront nous parler de la situation dans leur pays. Et puis enfin, on finira par quelques brèves, même pas mal, sur l'actualité ainsi que notre petit agenda pour tout le mois de novembre. J'oublie pas de vous dire qu'il faut vous pouvez intervenir en direct à tout moment au cours de l'émission en appelant le 04 56 14 23 54. Et donc, d'abord, parole à la CGT des sans-papiers.
Oui, bon, on a aujourd'hui en fait la chance de revoir Abou, hein, qui est déjà venu avec nous en mai dernier, qui était déjà venu témoigner. Et puis on a Constant, donc tous les deux militants de la CGT sans papiers. Et c'est vous qui avez fait la demande de revenir vous exprimer à micro-ondes pour faire un point plus spécifique sur la situation générale de la CGT, ses enjeux actuels, l'actualité, ce qui se passe au niveau de la CGT. Et puis vous aviez aussi envie de faire un point, on fera ça en deuxième temps, sur vos situations personnelles, parce qu'en fait c'est aussi un ensemble de situations personnelles qui demandent des réponses des fois pas des situations particulières quoi, voilà. Et du coup Constant, bonjour du coup tout le monde.
Bonjour, moi c'est Constant, je remercie d'abord la radio NUFM de l'émission Micro-Ondes qui me permet ici de m'exprimer de façon générale concernant la situation de sa papier en question.
Oui, j'oublie aussi, il y aura Farida, une amie à vous, qui est aussi à la CGT sans papier, qui va nous contacter. Elle n'a pas pu être là sur le plateau aujourd'hui. Il y a aussi des femmes qui militent à la CGT sans papier. C'était important pour nous qu'elle soit là aujourd'hui. Donc, elle sera là avec nous, mais par téléphone. Voilà.
Tout à fait.
Ouais. Et puis, à vous, bonjour.
Bonjour. Bonjour tout le monde qui travaille de News FM. Moi, c'est Abou Samba Dambaka, la Sénégalais, le né de 1972. Voilà. L'entrée dans la France ici depuis 2001. 2001 jusqu'à 2005. Le travail, c'est un déclaré. Le travail, c'est pas le travail noir. Voilà. La fin de compte, il m'a trouvé donc, les papiers, c'est pas bon. Après, il m'a dit, moi, c'est en police, c'est moi. Après, moi, c'est arrêté de le boulot. Depuis 2005 jusqu'à maintenant, voilà, le courrier partout, on n'a pas trouvé de moyens, rien du tout. Après, la fin de compte, moi, j'ai continué le travail encore. Le travail, c'est à déclarer. Après, il m'a donné.
Oui, alors c'est ça, du coup, c'est ça, oui. Voilà. C'est, votre travail était déclaré.
Voilà, c'est déclaré. Voilà, moi, c'est déposer de l'impôt, mon mienso, toutes les cotations en France, moi, c'est participer. Hein. C'est pas un travail noir, c'est pas de travail. Après, la fin de compte, on a commencé les travaux de 2012, 2011, 2013. 14, il m'a donné des récépissés première, deuxième, troisième.
Ouais, vous allez revenir du coup, on va commencer peut-être par ça, par expliquer c'est quoi ce mécanisme-là. Parce qu'à la fois, on parle de travailleurs sans papier, donc les gens, ils ont toujours en tête que c'est des gens qui travaillent sans papier ou qui travaillent au noir, comme on dit, ou qui travaillent. Et puis en fait, non, il y a des travailleurs sans papier qui ont eu des titres de séjour. Vous êtes spécialiste là-dessus, à vous la parole, parce qu'il faut qu'on comprenne c'est quoi en fait un travailleur sans papier.
Bon, je vais répondre à cette question. Bon, quand on dit un travail sans papier, bon, il y a d'autres qui travaillent au noir, c'est pas le même cas que nous. Nous, on avait eu des papiers d'abord, on a travaillé, on a même payé des impôts, on a même résidé. Moi, mon cas, ça fait au moins 6 ans que je suis ici en France. Pour des raisons XY, la préfecture a préféré me retirer les papiers. Or, pourtant, nous vivons dans un monde où toute personne peut avoir des problèmes dans cette vie, dans sa vie en question que j'allais dire. Et je reviens à votre question. Les travailleurs sans papier, pas forcément. Bon, je donne un exemple. La personne qui a déjà travaillé, qui paie les impôts et qu'aujourd'hui on lui retire les papiers, c'est comme s'il n'a plus de papiers.
On lui retire le titre de séjour.
Le titre de séjour, j'allais dire. Et il va falloir qu'il soit renouvelé de façon générale pour pouvoir travailler et vivre comme tout le monde. Et ce n'est pas le cas à la préfecture. À la préfecture, du moment où ton papier a été déjà retiré, c'est comme si tu es considéré comme un travailleur qui avait travaillé avant et maintenant tu n'as plus les papiers. Donc c'est comme si tu es un travailleur sans papier. Maintenant, d'autre part, il y a les travailleurs sans papier qui travaillent au noir, qui ont fait au moins 7 à 8 ans ici en France, qui travaillent et qui ont des fiches même de paye. Et aujourd'hui, ils veulent que la préfecture puisse renouveler de façon générale les papiers et pour qu'ils puissent travailler et payer les impôts comme tout le monde. J'allais aller un peu loin pour vous dire aussi quelque part, il faut essayer de comprendre que tous ceux qui travaillent ici en France, ils sont déclarés et ils ont des logements à payer, ils vivent comme tout le monde. C'est normal que quelqu'un qui n'a pas les papiers, quelqu'un qui est légaliste, doit avoir ses papiers de façon générale à être renouvelés. Et si vous voulez, je peux aller dans le cas général de la CGT et revenir aussi dans mon cas proprement dit.
Oui, bon, allez-y. Ouais.
En général, la CGT, c'est un syndicat qui permet à tous ceux qui n'ont pas les papiers, qui vivent en France depuis des années et qui doivent essayer de... la CGT permet à ces gens-là d'obtenir les papiers. Et qu'est-ce qui se passe à la CGT? À la CGT, il faut venir, il faut savoir, parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs sans-papiers qui ne sont pas informés, qui ont travaillé comme mon cas aujourd'hui, qui ne sont pas informés, et qu'il faut se pencher sur ce syndicat pour puisse être renouvelé de façon générale. Mais ces personnes, quand ils viennent, la préfecture a des principes, d'ordre principiel, j'allais dire. Et ils veulent que, oui, vous ayez un CERFA. Qui dit un CERFA dit une promesse d'embauche.
Qu'est-ce que c'est un CERFA?
Un CERFA, c'est un document administratif qui permet à un employeur de te faire une promesse d'embauche.
D'accord.
Et dès qu'il te fait cette promesse d'embauche, pour pouvoir te permettre à ce que tu sois renouvelé, parce que il faut pas, quand dire que tu as le CERFA et que l'employeur te fait cette promesse d'embauche, la préfecture exige à ce que tu aies ce document pour que tu puisses te régulariser.
D'accord.
Mais il s'est avéré que dès que tu as ce document, tu peux taper au moins 7 à 8 mois, tu n'es pas renouvelé, moi, mon quart. Et la préfecture, quelque part, je peux dire que c'est je peux pas dire que nous sommes vilipendés, mais nous sommes à savoir omis. Nous sommes omis de façon générale. Et quand c'est comme ça, c'est que quelqu'un qui a déjà travaillé, qui touchait les 1 800 euros, 2 000 euros par mois, et qui se retrouve pendant 8 mois, n'a même plus un lieu pour travailler, et que l'appartement où il vit ça devient très exorbitant. Il n'arrive plus à payer l'appartement. Et chaque mois, ça augmente. Renault Habitat te dit oui, et il faut te préparer à quitter l'appartement et de part et d'autre. Il n'arrive même pas à manger. Si ce n'est pas le resto du cœur qui peut se pencher pour qu'il puisse manger. Or, pourtant, c'est quelqu'un qui a ses facultés en place, qui cherche à travailler pour s'en sortir. Et vous le primez de ça. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Et ça part que oui, une personne qui ne mange pas n'est pas une personne libre. Et ils mangent, ils vivent, ils font tout ce qu'ils veulent. Et tandis que les autres sont là. Et ce qui me cœur souvent, une fois que tu es... Je n'ai pas parlé de la politique. Une fois que tu fais cette demande, que la CGT envoie cette demande à la préfecture, il va falloir que la préfecture prenne ce dossier du nom du CERFA qu'ils exigent beaucoup, à faire venir maintenant à la directe. C'est-à-dire, la directe, c'est...
La direction du travail.
La direction du travail qui doivent maintenant aller tout étudier le dossier pour savoir si ce dossier qui s'est adressé à eux, c'est un dossier qui va savoir si l'entreprise est une entreprise fictive ou pas. Et on a plusieurs amis qui ont vu que oui, c'était pas fictive et les employeurs veulent employer les gens parce qu'ils ont confiance à nous. Mmh. Et quelque part, si quelqu'un se penche à te faire un CERFA, c'est quelque part, il a confiance à toi, il veut que tu travailles. Or, pourtant, quand les jours et les mois sont passés, et la directe essaie de savoir si est-ce que c'est d'actualité de prendre ce monsieur. Quelque part, c'est pour nous brimer. C'est pas gentil. On attend. La préfecture ne s'occupe pas de nos dossiers. On est là. Bon, je donne moi mon cas. Moi, je ne suis pas un vendeur de drogue. Je suis quelqu'un de légaliste. et j'attends à ce que tout soit dans les normes pour que je puisse travailler et vivre comme tout le monde. Et je suis intercepté dans ce cas. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment méchant de les part. Et quand on les appelle, non, on a trop de dossiers, on a trop de ceci à faire, on est vraiment débordés. Ils sont débordés, mais à ma connaissance, je sais qu'à la préfecture aujourd'hui, il y a des personnes, maintenant c'est sur Internet, tout se passe. Oh, il y a des dossiers qui sont là qu'on doit étudier. Maintenant, je vais pas aller plus loin, je vais parler du nouveau préfet qui vient d'arriver. Lui, il est arrivé, il nous a reporté le rendez-vous de façon générale plus de deux fois.
Est-ce cette que fois-ci. Du coup, le nouveau préfet, donc c'est M. Beffre, c'est ça là, qui est en place depuis juste six mois?
Oui, ouais. Okay, c'est tout à fait. Et lui, il nous a reporté le rendez-vous. Oh, pourtant, c'est très simple. Nous sommes des aides biologie. Hein. Nous sommes tous des aides biologie, nous sommes bien organisés. Une fois qu'on donne un rendez-vous, moi, je ne vais pas aller pour dire que oui, pourquoi il ne veut pas nous recevoir. Quelque part, je peux dire que soit il est vraiment pris, parce qu'il vient juste de prendre fonction, il est vraiment pris, et on va devoir attendre, parce que nous sommes des personnes, des patients. On attend, et le rendez-vous est reporté jusqu'au 30. Je prie par la grâce de Dieu qu'il nous reçoive, pour qu'on essaie de lui dresser...
Le 30 novembre, hein, le prochain rendez-vous.
Le 30 novembre, oui. Je prie par la grâce de Dieu pour qu'il nous reçoive, pour qu'on puisse essayer d'être régularisé. Parce que c'est que ses prédécesseurs, ils n'ont pas... j'allais pas dire un contrat, on a des principes, d'autres principales avec la préfecture. Ce que la préfecture demande, on fait venir et on essaie de nous régulariser. Parce que vraiment, et moi, ça me cœur que je suis là, j'arrive même pas à joindre les deux bouts, je sais pas comment faire. Je sais pas comment en Côte d'Ivoire, comment je proviens de la Côte d'Ivoire. C'est pas en Côte d'Ivoire où tu ne travailles pas, tu peux aller chez le cousin ou bien chez le voisin aller manger. Ici, nous sommes en Europe, en France. Dès que tu n'as rien, tu restes dans ta merde et tu es toujours dans ta merde. Or pourtant, on n'est pas des gens qui sont pas... Nous sommes des personnes légalistes et nous ne sommes pas des vrabons qui sont là et qui traînent comme des traînards. Vraiment, je demande vraiment à ce que, par ma voix, tous ceux qui m'écoutent sachent que oui, on est en France, mais on n'est pas vraiment libre. Parce que quand une fois que tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à savoir et à essayer de vivre comme tout le monde, tu n'es pas libre. On parle des libertés. Moi, je suis vraiment désolé dans ce cas. Moi, mon cas, moi, je ne suis pas libre. Je ne peux pas aller cambrioler une baraque pour pouvoir essayer d'y vivre. Moi, je suis là depuis que je suis enfant, je travaille, tout est déclaré. Je suis toujours payé à 1800, 1700 euros. Et aujourd'hui, mais je n'arrive même pas à payer même du pain pour manger. 1 euro, vraiment, c'est dangereux pour ma vie. Et je demande à ce que je me penche bien sur tous ceux qui écoutent ce message et par le biais de la radio, l'émission micro-ondes, d'essayer de comprendre nos situations. C'est pas parce que nous sommes des hommes de couleur qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On a été inculqué par des Français, on parle très bien le français. Et moi, mon cas, j'ai une maîtrise en sciences éco. Mais quand tu arrives ici en Europe, tu vas pas essayer de suivre ici, tu vas pas essayer de prendre ta maîtrise pour continuer. Il faut chercher à être assis dans un lieu avant de continuer les études. Je suis vraiment intercepté. J'arrive même pas à penser à mon ambition, à ce que je vais faire. J'arrive pas. Et vraiment, c'est ça me cœur. Je suis là, je traîne et vraiment, c'est quand même méchant. C'est vraiment méchant.
Et donc, le préfet vous reçoit le 30 novembre. C'est la CGT sans papier ou avec d'autres associations?
En général, c'était avec d'autres associations et avec c'était inclus par la CGT sans papier et pour pouvoir l'expliquer notre situation proprement dit. Parce que vraiment, nous sommes dans la merde. Et moi, j'allais dire aussi à tous ceux qui m'écoutent là actuellement, si moi j'étais un vendeur de drogue, moi j'allais même pas venir à la radio. Je sais que je vendais ma drogue, je tue mes sous, je paye mon loyer, je fais ce ticket là. Actuellement, si je suis en train de dire, en tant qu'un chrétien, si je tombe malade ou je suis dans la merde. Parce que la CMU est coupée, tout est coupé de part et d'autre. L'appartement, j'arrive pas à payer, ça fait maintenant 3 mois. Les documents sont là. Et quand même, sois humain entre nous. Sois humain. Ils sont à la préfecture, c'est juste donner un papier à une personne pour pouvoir vivre comme tout le monde. Vraiment, c'est quand même méchant. Et on est pas mal dedans. On a plusieurs amis qui ont même eu le CERFA, comme j'ai dit, c'est-à-dire une promesse d'embauche. Et après, la préfecture essaie de balancer ce document ils essaient de balancer ce document. Souvent, les dossiers sont là, ils étudient même pas les dossiers. Et je rappelle aussi que la préfecture, c'est une administration. Que ça soit très bien clair, c'est une administration. Une administration, elle doit savoir. Parce que moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Quand nous, on travaille, c'est pour pouvoir développer le pays. Quand nous, on travaille, c'est pour pouvoir... Il y a des tramways qui ont été construits ici par nous, les étrangers. On a travaillé, les impôts que nous payons, qui a permis à ce qu'aujourd'hui, les tramways ont été construits et tout le monde y profite. Mais quand même, essayez d'être quand même compréhensive. Je donne un exemple très simple de mon pays actuellement qui est en ébullition. Depuis 2000, 2000, que mon pays était dans un problème un peu délicat du président que nous, on a pu voter, qui a fait qu'il y a des gens qui ont exigé un président que nous, on n'a pas voté. Or, ça ne se passe pas ici en France. Depuis que moi, je suis en France, c'est un pays qui est vraiment... Les Français sont des personnes qui sont respectueuses, qui sont gentilles. Et là, je les tue le chapeau. Mais quand même, quand on parle de quoi? Quand on parle d'une constitution, c'est ce qui est le peuple. Le peuple, c'est quoi? La constitution, c'est ce qui permet au peuple de... C'est le sang du peuple. C'est l'âme du peuple. Et cette constitution que nous, on a, et le peuple a voté plus de 86% aujourd'hui. Le président en place, il n'a pas été voté, qu'il n'est même pas un président, même qu'on a voté, on nous a imposé un président. Pourquoi? Pour des ressources. Les ressources, on est toujours en collaboration avec la France. Le pétrole, le cacao, le café. Je vois que les Français, ils aiment bien le café. Ils savourent tant le café, ils savourent tant le cacao. Mais ça provient de l'Afrique. Tout ce qui est ici, ça provient d'Afrique. Mais nous, quand vous foutez la merde chez nous et qu'on arrive ici, on n'arrive pas à manger. En plus, encore, vous le mettez dans la merde. Mais quand même, c'est méchant. Nous, on est là, on a tout ce qu'il faut en Afrique. S'il n'y a pas la merde qui est foutue là-bas, on va rester chez nous. On est tranquille, on vit comme ici. C'est parce qu'il ne fait pas froid. Et là-bas, on s'en fout de la fraîcheur. On est tranquille, on peut se mettre lui-même pour se promener. Il y a les plages, il y a tout ce qu'il faut. Mais si, quelque part, on essaie de bombarder chez nous, essaie d'exploser, essaie des amalgames de part et d'autre qui font qu'on fuit jusqu'à ce qu'on arrive ici à se cacher. Pour des papiers, on nous retire les papiers encore. Quand même, c'est quand même méchant. Et vous pensez que quand c'est comme ça, la vie va aller de l'avant? Mais non. Les tramways qui sont construits, tous ceux qui y profitent, ils ne savent pas. Ce sont les impôts qu'on paye. Moi, je vous parle actuellement, les impôts sont venus, je ne dois pas. Je suis quelqu'un de légaliste, je ne dois pas. Mais je dois pour l'audiovisuel qui vient juste d'arriver, qui est 375 euros. Comment je vais essayer de faire pour payer? Je suis obligé de dresser un courrier pour montrer que oui, depuis de tel mois à tel mois, le titre de chômage m'a été retiré. Ça fait maintenant 9 mois que mon titre de chômage m'a été retiré.
Ouais.
Je ne sais pas comment vivre. Et vous pensez que c'est comme ça la vie? Non, ce n'est pas comme ça. Chacun, même tous nous qui vivons, même les musulmans, les chrétiens, nous tous on fait partie de la même communauté. Ça ne sert à rien d'essayer de montrer que oui, parce que lui, les musulmans, que oui, je ne l'aime pas. Non, on fait partie, c'est nous qui permettons à ce pays de se développer. Ça ne sert à rien d'essayer de critiquer des religions de part et d'autre. Moi, je suis un chrétien, mais les musulmans, ce sont mes frères. Ça ne sert à rien. Il y a des choses qui sont là, des problèmes qui sont là. Il y a des problèmes qui sont vraiment là, des problèmes primordiaux qu'on doit régler. On ne règle pas. On vilipende les Africains parce qu'ils ont fui, ils sont venus se cacher ici. Et arrivés ici, on n'arrive même pas à essayer de les aider à ce qu'ils s'en sortent. Moi, j'ai un appartement que moi, je paye ça et là actuellement. Je ne sais pas comment essayer de résoudre, mais je suis en train de voir, par la grâce de Dieu, et le préfet qui va arriver, qu'on va prendre le rendez-vous, qui essaie de se pencher. Ce n'est pas moi, c'est ma situation. On a pas mal d'amis qui sont dans cette merde.
Ça représente combien de personnes à la CGT sans papier, du coup?
En général, à la CGT sans papier, ceux qui déposent les papiers à la préfecture, c'est ce que vous me demandez?
Bah, la CGT sans papier, elle va défendre combien de dossiers à la préfecture? Elle va faire suivre combien de demandes de CERFA, par exemple?
Merci pour cette question. Ça ne vaut même pas 17.
Seulement?
Oui. Donc, quand je dis 17, ça veut dire qu'il y a des habits qui attendent depuis 3 à 2 ans. Mm. Au moins une quinzaine de personnes qui attendent, qui sont en attente. Tandis que les autres qui sont là, ça ne vaut même pas 17. Mais la préfecture ne se penche pas sur cette situation.
Même sur ces 10? Ouais.
Même sur ces 10, on essaie d'éliminer des gens. Pour des raisons ici, Grèce, on essaie de l'éliminer. Actuellement, nous vivons dans un pays de...
Oui.
Nous vivons dans un pays de légalité, comme j'allais dire. Ici, c'est un pays où la voix est expressive, c'est-à-dire nous sommes en démocratie ici. Mais pourquoi?
En démocratie, mais en démocratie quand même qui coûte pas justement et ce que vous avez à dire et qui vous respecte pas. Enfin, on est même. C'est vrai que il y a le mot démocratie, mais on peut aussi en discuter ici à l'antenne. Enfin, c'est absolument scandaleux quoi, ce qui arrive justement aux sans-papiers qui travaillent. Enfin, moi, je trouve vraiment le témoignage super touchant quoi.
Oui.
C'est aussi juste pour dire que oui, certes, au début, on peut se dire c'est incompréhensible pourquoi justement cette préfecture, pourquoi le préfet qui est déjà en fait en Isère depuis 6 mois refuse toujours de vous voir ou a mis autant de temps pour vous recevoir, pourquoi pour 17 cas en fait ils vous font autant traîner. Et en fait, tu l'as bien dit, Constant, à un moment c'est aussi une vraie logique quoi, une logique d'État, une logique de maintenir les gens dans des difficultés en fait pour les mettre à genoux, je sais pas ce que toi t'en penses, mais
oui c'est ce que j'en pense. En général, c'est pour nous mettre en genoux, mais pour nous mettre en genoux pour pouvoir faire traîner l'économie, parce que nous sommes là pour travailler, pour pouvoir développer ce pays. Si vous nous mettez en genoux, dans quel cas vous nous mettez en genoux? Qu'est-ce qu'on a fait? On a eu des gens qui ont tué des gens ici qu'on a pardonné. On a eu des gens ici qui ont égorgé des prêtres ici qu'on a pardonné. Mais pourquoi nous mettre en genoux? Pourquoi?
C'est une question dont les réponses défient vraiment toute logique.
Ouais. Mais,
oui. Mais... Attends, la poser des questions des gens là. Comme t'as posé, parce que les 2013, des circulaires de Manuel Bass, il est sorti
de la circulaire de Manuel
Bass
ouais.
pour les sans-papiers. Parce que nous, les syndicats, pour les sans-papiers, parce qu'il est basé des circulaires de Manuel Bass. Bon, enfin, 2013, 2014, bon, quand il s'est qu'il a déposé des papiers, il est sorti, minimum, dans un an, 20 personnes qui ont gagné des papiers. Bon, maintenant, jamais du tout.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, juste au moment de la sortie de la circulaire, il y a eu 20 personnes.
Voilà, parce que
et puis après,
voilà.
Plus personne.
Donc avant, les circulaires de Manuel Bass, de CCT, ils basent comme qu'ils les demandent tous, après, sans papier, ils fournent tous les papiers, après ils déposent, voilà, ils donnent des papiers. Donc maintenant, jamais du tout. Même les circulaires de Manuel Bass, quand ils fournissent tous les papiers, tous les dossiers, tous les papiers, même ils les déposent là-bas, après, fin de compte, ils ont des refus. Bon,
que des refus.
Des refus. Bon, quand ils gardent cette année-là, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas les 5 personnes qui l'ont gagné ou les 4 personnes. Voilà, tous ils ont donné des. Voilà, le cas que pour le constat qu'il a dit. Parce que nous, on est entré dans la France. Parce que si, quand tu es entré dans la France, tu vois où tu as robé, où tu as fait quelque mal, tous les Français, ils le connaissent. Parce qu'il m'a gardé mon dossier là. Bon, il m'a donné de reposer. Donc, à vous, on a gardé ton cas là, parce que tu n'es pas un délinquant, tu n'es pas un robé, tu n'es pas un massien. Bon, tu as tout le. Heureusement, pour les sans-papiers. C'est ce qu'il a. Bon, mon grand-père, de 14-18, il m'a fait une guerre ici. Même mon père, il habitait ici à Samatander. Il est parti à Wakas. Après, il est mort là-bas. Dedans, moi, c'est un petit. Moi, je ne connais pas, même pas de Calcutta, donc il est mort. Après, il est gardé, il est ici. Parce qu'avant de l'indépendance du Sénégal, ton père, il est là. Mon père, il est là. Il habitait ici à Samatander. Bon, jusqu'à maintenant, pour les sans-papiers, jusqu'à maintenant, jamais il a réglé mon dossier. Moi,
on vous a donné combien de titres de séjour à peu près?
Trois.
Et après,
première,
plus jamais.
Deuxième, voilà, il est accordé. Donc, de fin de compte, il est dit, ah, non, parce que tu as cité des sans-papiers. Si, moi, ce n'est pas des cité des sans-papiers. Comment qu'il est trouvé à travailler pour le travail? Moi, le travail, la fin de toutes les cotations en France, ici. Le premier, le travail de Midali Ferrer, le travail public, il a test à la AOLA. De fin de compte, à Colas, Lasgreg, Sancerre, partout les. Même le travail qu'il est ici, ici à 2013, c'est nous qui l'avons fait travailler ici.
C'est vous qui avez bossé sur ces chantiers-là.
C'est moi qui le chantier de ligne 1, ici. Encore le travail qu'il est, Mora, les TCB qu'il a fait à Mora, c'est ce qu'à Wallace, nous qui l'avons fait ici. On a travaillé ici de 8 mois. Voilà, donc on a travaillé. Moi, ce n'est pas besoin de pour le voyou, pour les quelques heures. Seulement pour les papiers, pour le travail seulement. Parce que moi, c'est un père de famille, moi... Parce que moi, c'est fait à l'école pour les Arabes, c'est pas pour les faire des bêtises comme quelque chose. Parce que moi, c'est pas besoin pour quelqu'un de faire des bêtises. Moi, jamais moi, c'est fait des bêtises. Non. C'est ça pour les, mon question. Voilà. Donc, on a venu pour ça. Ok, mon coucher là. Donc, il va rien là. Voilà.
On va faire une petite pause musicale avant de revenir à ce sujet. Et d'ailleurs, vous avez choisi des morceaux et je crois que c'est des morceaux qui vous tiennent à cœur.
Et
je préfère vous laisser les présenter, en fait.
Ouais. Tout à fait. Oui, je ne sais pas quel morceau vous avez choisi.
Caméra, peut-être, au départ.
À Caméra, vous aviez
À Caméra, oui.
À Caméra, oui, en fait. À Caméra, c'est un morceau pâte.
Ah, ce n'est pas Caméra, finalement.
Un Gaou à Paris.
Un Gaou à Paris.
Bon, un Gaou à Paris, oui, il n'y a pas de souci, mais c'est un PK Duc de ma part.
Ah. Rouge Nuage. Non. Les titres, les garagistes, peut-être.
Oui, les garagistes,
et
oui.
Caméra, on le mettra dans un deuxième temps. Je
préfère garagiste d'abord et après on verra. Merci.
Alors, les garagistes, c'est quoi?
Les garagistes, je ne sais pas c'était quel titre tu avais mis déjà.
Titrologue.
Ouais, titrologue. Merci pour la question concernant titrologue. En fait, titrologue, c'est ceux qui aiment regarder les journaux, qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils essaient de regarder de façon générale. C'est un peu. Bah, ils ne regardent pas la forme. Et ils regardent la forme, ils ne regardent pas le fond.
Ah.
Et ils se disent que oui. Tout ce que toi, tu as essayé de, j'allais dire, essayé de voir dans ce journal, et ils n'arrivent même pas à expliquer ce qui se passe proprement dit dans un pays. Et quand c'est comme ça, c'est quand même un peu, vraiment, c'est comme si ils ne sont pas lettrés. Or, Un titrologue, c'est quelqu'un qui regarde les journaux, le titre, et vient dire, voici ce qui s'est passé. Or, quand tu prends un journal, il faut essayer de lire du début jusqu'à la fin et décortiquer et savoir ce qu'il en est en question. Donc, c'est titrologue. Merci.
Oui, promis, après, ce sera caméra. Désolé encore.
Et après, c'est ça.
Titre l'encore, yaya, c'est
yeah, yaya, c'est les ailes.
Écoute ta radio où tu veux, quand tu veux.
www.radionewsfm.fr
101.2.
Donc de retour sur le plateau avec Constant et Abou. Et là, on va essayer de joindre par téléphone Farida, du coup. On va reprendre la deuxième partie de cette émission. Il y avait des questions que peut-être des auditeurs ont envie de poser aussi. Et donc, du coup, je rappelle le numéro quand même de la ligne. 04 56 14 23 54. Sachant qu'il ne faudra pas le faire pendant que Farida appelle, parce que tout simplement, la ligne sera occupée. Mais en tout cas, si vous avez, vous, des témoignages, envie de réagir à des propos, n'hésitez pas à rappeler. Voilà. Et est-ce qu'on a Farida en ligne? Est-ce que ça marche? Presque. Et voilà. Bonjour Farida.
Bonjour.
Salut. Hop, c'est bon? Je t'ai toujours en ligne ou pas?
Oui.
Ah, bonjour. Ça marche la technique, bravo. Est-ce que, du coup, Farida, t'as eu l'occasion d'entendre tes camarades de la CGT?
Oui, j'en ai entendu Constant et Abou.
Oui.
Et on est ensemble à la CGT sans papier.
Oui. Et tu voulais réagir par rapport à ça ou
Oui, je voulais réagir et lancer un appel aussi.
Ouais.
Ouais.
Alors, vas-y, c'est à toi. L'antenne est pour toi.
On est en direct, là?
Oui, on est en direct. Tu peux y aller.
D'accord. En fait, je voulais parler de la CGT. C'est une structure qui accompagne les personnes travailleurs sans papier. Elles déposent leur dossier au niveau de la préfecture et elles se battent tous les jours pour obtenir un avis favorable de la préfecture. Et c'est un combat quotidien, en fait. Elle fait beaucoup d'efforts pour nous tous. Sachant que moi aussi, je suis une travailleuse déclarée et je cotise chaque mois à l'URSSAF et je suis sans papier. Mais le problème, c'est que je ne peux pas déposer un dossier parce que ça fait pas longtemps que je suis là. Et voilà, on est dans un cercle vicieux, on est en train de tourner en rond et on est perdu et on n'arrive pas à trouver de solution.
Petite question, la préfecture estime qu'il faut travailler combien de temps avant de pouvoir demander un titre de séjour? Tu dis que ça fait pas longtemps, il faut attendre combien de temps encore dans cette situation
Il faut avoir 24 fiches de paye.
Donc pendant 2 ans, en fait, on vous demande de cotiser, voilà, de payer les impôts sans avoir aucun droit, en fait. Hein.
Voilà. Donc, 24 fiches de paye pour pouvoir déposer un dossier au niveau de la préfecture.
Un dossier de renouvellement de titre de séjour ou un dossier tout simplement de demande de titre de séjour?
Un nouveau dossier.
Un nouveau dossier.
Une demande de titre de séjour. Non, ce n'est pas un renouvellement.
Ah oui.
Moi, je suis rentrée en France avec une visa touristique, mais j'ai décidé de rester. Mais après, j'ai trouvé du travail. Et je travaille avec un contrat, et un CDI, avec tous mes cotisations mensuelles, tous les papiers, ils sont en règle. Et voilà, et je ne peux pas déposer un dossier.
Oui. Et voilà. Vous vouliez parler aussi de la CGT. Qu'est-ce que ça vous... Quand est-ce que vous avez croisé, vous, la route de la CGT sans papier, là? Ça s'est passé comment?
En fait, j'ai entendu parler à plusieurs reprises dans les associations, parce que moi, je suis bénévole dans d'autres associations. Et j'étais touchée directement parce que j'ai trouvé un travail et j'avais un justificatif de ce travail-là. Et je me suis tournée vers la CGT sans papier. Et ça, c'était en janvier 2016. Mmh. Et voilà.
Et du coup, là, vous êtes prévu aussi, vous allez vous rendre au rendez-vous de novembre. Comment ça se passe, en fait, à la CGT sans papier? sur ces rendez-vous à la préfecture, qui y va, comment c'est fait, comment ça se passe?
Ah non, en fait, c'est pas tous les sans-papiers qui ont le droit d'y aller, c'est juste le président de la CGT et les présidents de d'autres associations. En fait, ils ont demandé ce rendez-vous avec le préfet, mais pour parler des cas qui sont en attente depuis des mois, des années, on va dire, et pour un petit peu débloquer les choses, parce qu'on voit là que tout est bloqué. La préfecture n'arrête pas d'envoyer des refus et du QTF pour les personnes qui, ça fait des années qu'ils sont là, et elles veulent à tout prix les renvoyer chez eux.
Et comme, du coup, ce travail avec les autres associations, c'est, ça a été d'abord une organisation, parce que c'est pas un rendez-vous intersyndical à la préfecture, du coup. Moi, j'avais compris ça au départ. Du coup, c'est plutôt un travail à l'intérieur, enfin, dans le réseau associatif qui accompagne des sans-papiers. Donc, il y a pas mal d'associations. Du coup, moi, je suis pas au courant de ce. Et c'est qui ces associations qui travaillent avec
Là, il y a un rendez-vous avec la CGT sans-papiers à la préfecture pour parler des cas qui sont bloqués, ça fait des années. Mais il y a une autre demande aussi des autres associations qui accompagnent les sans-papiers pour rencontrer le préfet en direct.
D'accord.
Oui, effectivement, il y a une coordination iséroise de solidarité avec les étrangers migrants, la CISEM, et qui regroupe effectivement, outre la CGT sans-papiers, plein d'autres associations, donc Hébergement Logement, je pense, Patate Chaude, la Ligue des Droits de l'Homme, etc. quoi. Et donc, cette coordination, elle sert un peu à regrouper nos forces.
Ouais.
Ça veut dire qu'aussi, le jour de ce rendez-vous-là, il va y avoir un rendez-vous pour aborder toutes les situations, c'est ça?
Non.
Non, voilà, d'accord. Chaque asso, ça va avoir quand même son temps de, parce que d'un coup, en comprenant ça, j'ai l'impression que chaque association, que ce soit la CGT sans papiers ou autre, finalement, vous n'avez pas beaucoup de temps. Déjà, les rendez-vous sont repoussés. Et en plus, si c'est des rendez-vous qui rassemblent plein d'assos, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des mots, des revendications communes à l'intérieur des associations? Et comment les situations particulières arrivent à passer à l'intérieur de tout ça? C'est compliqué, ça me semble compliqué, moi, de mon point de vue, mais je sais pas. Comment ça se fait pour vous?
En fait, c'est les présidents des associations qui vont parler. Chacun, je sais pas comment ils vont s'y prendre avec le préfet, mais chacun parlera de ses cas.
Oui.
Voilà, je sais pas, c'est à tour de rôle où chacun parlera des cas qu'ils ont. Voilà, mais je sais pas, je suis pas sûre que la CGT en fait partie, parce que la CGT, elle a déjà un rendez-vous. Elle a déjà son rendez-vous pour parler de ces cas. Mais la CGT, elle a accepté de parler, d'avoir le rendez-vous avec le secrétaire général du préfet. Mais les autres associations, ils n'ont pas accepté ça, ils ont demandé à voir le préfet en direct.
Ah oui, parce que quand le nouveau préfet est arrivé, c'est ça, c'est un rendez-vous qui a été donné avec le secrétaire général.
Voilà, ils l'ont jamais rencontré. Ils n'ont affaire qu'avec la secrétaire générale de la préfecture.
Et comment ça s'était passé avec les préfets précédents? Je vais y arriver.
Oui.
Celui qui était là, il y en a un qui est resté un an, là, à peine. Et avant, il y en avait un. Est-ce qu'il y avait des choses, c'était un peu pareil, là?
Vas-y, Constant.
Enfin, je vais répondre à cette question. En général, le préfet qui vient de partir, lui, il n'a pas respecté notre accord. En général, il n'a rien respecté.
Il y avait un accord.
Il y avait un accord avec la CGT, en fait. Les syndicats des travailleurs sans papiers ont un accord avec la préfecture. Et donc, il y a un préfet qui arrive, c'est-à-dire il doit respecter ce que son prédécesseur à trouver là. Et mais il s'est avéré que le syndicat qui vient de partir, le préfet qui vient de partir, lui n'a pas respecté. Il n'a rien respecté. Donc c'est pour cette raison, on a demandé à ce qu'on croise le préfet. La dernière fois, le préfet voulait nous croiser et croiser les autres associations, comme lui vient de le dire. Mais le préfet n'avait pas le temps, à ma connaissance, je pense qu'il n'avait pas le temps. Et il a fait venir, il a mis son préfet, j'allais dire, et son syndicat, le secrétaire général, au devant des croisés, ses syndicats, ils ont refusé parce que le syndicat, il a toujours sa même manière de s'asseoir, il n'aime pas essayer de changer les principes, j'allais dire, d'ordre principiel. Donc, d'autre part, ils ont refusé de le croiser, ils veulent croiser proprement dit le préfet. Voilà.
Moi, j'avais une petite question un peu, voilà, aussi. Comment, enfin du coup, je vois que vous êtes organisé, que justement vous allez rencontrer le préfet, il y a aussi des manifestations. Est-ce que, entre guillemets, voilà, comment on sort du bois, est-ce que c'est difficile à un moment de dire officiellement, voilà, avec tous les risques que ça comporte, ben voilà, je suis sans papier, je travaille depuis tant de temps et j'assume ça pour pouvoir défendre mes droits. Enfin voilà, est-ce que c'est difficile peut-être un peu à chacun de vous, enfin voilà, de vous être dit, bon bah, j'assume publiquement cette illégalité, entre guillemets, dans laquelle on me pousse?
Moi, je vais répondre à cette question. Moi, à ma connaissance, ce n'est pas difficile parce que... Et j'allais dire, ce n'est pas difficile. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu n'as pas les papiers, c'est comme si tu n'existes pas. Et d'autre part, il faut essayer de comprendre aussi qu'il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir obtenir ce que tu veux obtenir. C'est-à-dire, il faut être optimiste, j'allais dire. Et moi, à ma connaissance, je ne suis pas, comme vous venez de le dire, je vais aller jusqu'au bout pour pouvoir obtenir mes papiers et vivre comme tout le monde.
Donc c'est un message aussi pour toutes les personnes justement qui,
oui, toutes les personnes qui n'ont pas les papiers,
qui hésitent aujourd'hui
à se syndiquer, qu'ils viennent, parce que on suit toujours la circulaire Valls qui a été instaurée pour permettre à ce que lui qui n'a pas les papiers ou bien qui avait les papiers avant que les papiers leur aient été retirés peut procéder dans ce sens pour obtenir les papiers. Et ce sont des principes que nous suivons tous. Donc moi, à ma connaissance, moi je vais jusqu'au bout pour obtenir mes papiers. Merci.
Farida, du coup, toi, t'es toujours là, moi, tu voulais réagir?
Oui, je suis d'accord avec Constant et j'irai jusqu'au bout. Et d'ailleurs, même avant, même maintenant, on lit son papier, mais on n'a pas peur. On a fait plein de manifestations devant la préfecture. On a fait de la marche avec la CGT la dernière fois. On était en premier rang avec notre banderole où il y a écrit sans papier, travailleurs sans papier, on demande nos papiers, voilà. Et on n'a pas peur de tout ça, on fait rien de illégal. Et on a atterri dans ce pays, mais on a aimé et on veut rester. On fait rien d'illégal, on travaille et par ce travail-là, on existe. Et voilà. Et on veut que la France reconnaisse au moins ça pour nous. Et je lance un appel aussi. Il y a un rassemblement le mercredi après-midi devant la préfecture. Il y a plein d'associations qui vont assister.
Mercredi qui vient? Mercredi 9?
Le mercredi 9, oui, pour interpeller le préfet pour qu'il puisse... regarder d'un œil toutes ces associations qui se battent pour ces personnes-là.
Oui, c'est à 17h30, hein, 17h30 devant la préfecture, ouais, mercredi, et c'est également pour le soutien général aux migrants qui sont vraiment face à toutes les difficultés dont vous êtes en train de parler.
Voilà, oui.
Et tu voulais nous parler plus de ta situation personnelle ou...
ma situation, ça fait plus d'un an que je travaille. Non, ça fait 2 ans que je suis là et ça fait 2 ans que je travaille. Et dès le premier mois, j'ai travaillé, mais j'étais non déclarée. Je travaillais qu'au black, comme on dit. Mm. Et récemment, mon patron m'a déclarée. Et j'ai signé avec lui un CDI. Et j'espère avec ça obtenir mes papiers.
Alors, il vous a signé un CDI alors que vous n'avez pas l'autorisation de travail, c'est ça?
Oui, il a pris le risque parce qu'il a vu que je faisais bien mon travail et j'étais vraiment intégrée. Et je suis là pour travailler, pas pour autre chose.
Ouais, et puis c'est toute l'absurdité du système en fait là qui émerge, parce qu'en final, pour pouvoir obtenir des papiers, il faut que vous justifiez d'un contrat de travail dans une situation où vous n'avez pas l'autorisation du contrat de travail.
Voilà, c'est un cercle
vicieux. Ça s'appelle du Kafka.
Voilà, ils nous font tourner autour d'un cercle et qui n'a pas d'issue, en fait. On n'a pas le droit de travailler, on n'a pas de papier, on n'a pas le droit de travailler, mais quand même, on a obtenu un CDI et on ne peut pas avoir de travail parce que le patron, il n'a pas le droit de nous donner ce contrat. Et voilà, et c'est un cercle vicieux qu'on ne peut pas s'en sortir. Mais voilà. Moi, je ne me considère pas comme une personne sans papier parce que je suis là, je travaille, je paye mon loyer, j'ai une maison, je suis une citoyenne comme tous les autres. Voilà.
Merci, en tout cas, pour ce témoignage. C'est bien d'avoir... Oui. Est-ce qu'on a des appels ou pas par rapport à ça? Pas d'appels, pas tout de suite.
En fait, tant que Farida est en ligne, on ne peut pas avoir un autre appel, mais on verra après s'il y aura des réactions.
C'est pourtant moi qui l'ai dit tout à l'heure, ce truc.
Et peut-être, je ne sais pas si... Ouais, un petit mot un peu pour conclure cet entretien.
Quelqu'un veut donner le mot de la fin?
Une
question, j'ai l'impression qu'il y a encore une question sur le plateau.
Non, ce n'est pas une question. C'était juste que j'ai été super touché par les différents témoignages. Et j'invite nos auditrices et auditeurs à venir mercredi après-midi à la préfecture pour venir échanger justement avec ces différentes personnes et voir quel est leur vécu. Parce que on peut chacun à notre niveau agir pour les accompagner. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir à échanger avec toutes ces personnes en grande difficulté. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Un dernier mot, Constant?
Un dernier mot
Ou le lancement de ta chanson?
Le dernier mot que je voulais dire aussi, je vais profiter pour dire encore merci encore à News Radio, News FM, c'est ça, FM. Et j'allais dire aussi vraiment, ça me va droit au cœur du fait que vous nous soutenez. Et bah oui, c'est ce que je voulais dire pour l'instant.
Super, merci, merci à tout le monde, merci Constant, merci Abou et merci Farida.
Et est-ce qu'on passe à caméra?
Cette fois.
Alors par contre, il y a un truc à dire sur à caméra quand même. Hein. Il y a une présentation pour cette chanson, elle est particulière.
Vas-y alors.
Alors, à caméra, c'est une musique, j'allais dire... Je suis coupé, on dirait. À caméra, je disais que c'est une musique patriotique qui permet aux Ivoiriens de libérer les pays parce que le pays était annexé cette année où ce morceau était sorti. C'était annexé par, j'allais dire, des occultes. Voilà. En un mot, des occultes qui sont venus et qui ont pris des armes pour attaquer le régime qui était en place. Or, pourtant, ils n'ont jamais rien compris et ils ont attaqué ce pays. Donc, la caméra, c'est pour les filmer, pour pouvoir les détecter, en fait. C'est ça, le morceau à caméra.
Super. On s'écoute ça. Encore merci, en tout cas, vraiment, pour un super témoignage. Merci beaucoup.
Bon, innocent Versace Ramazan, bébiche. Allez, Vecho, c'est où là? Steve, Hippolyte, allez, tout le monde.
Yo.
Aujourd'hui victime aux victimes pour sa prospérité. Aujourd'hui victime aux victimes de ses manipulations. Aujourd'hui victime aux victimes de grandes jalousies. Et maman qui se cache derrière ses atrocités, Yahvé nous regarde. Qui se cache derrière ses atrocités, mon Dieu nous regarde. Qui se cache derrière ses atrocités, Yahvé nous regarde. Qui se cache derrière ses atrocités, mon Dieu nous regarde. Après la vie, il y a la mort, après la mort, le jugement. Après la vie, il y a la mort, après la mort, le jugement. Yeah, Fabio.
Et mon Dieu t'avoue.
C'est toi qui avais raison. Les vrais bourreaux de l'Afrique, ce sont les Africains. Ils commencent la guerre et sont les premiers à fuir. Assis de construction sur les côtes d'Asie. Mais nous on est là, parce qu'on a des constructions sur le mont Korogo et les dents de main. On y va.
Okakumio, Wilson, Nipo. Okakumio, Bingo, Nipo. Nino Faso, Nipo. Jikuo, Nipo. Don Marco, Nipo. Julien, Nipo. Edwige, Nipo. Agbadou, DJ, Nipo. Jay, Joël, Nipo. Pat Belano, Nipo. C'est son killer, des six procureurs, DJ Dakouri, Jonathan, DJ Sénatel, DJ Bomana Becho, Hervé Denon, ah bon, Souba, Kamalana yo, ah bon, Amoy Yolande, Femousse, Eric Côte d'Ivoire, la famille Yang, Souba, Sergent. Plaisir, plaisir, ah bon, Barrette Boulevard des Stars, ah bon, Vecho Yang, ah bon, Boni Yang, Justine Yang, la famille Yang, tous les gars, Aimé Chicago, George Bailly, tout va, tous les mots, allez, caméra, à caméra, caméra. Caméra, à caméra, caméra, caméra. Abdul Kanté, Abdul Malan. À caméra, 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 à caméra. Lorenzo, caméra, à caméra, à caméra, à caméra, à caméra. Tuba, la famille Maliano. Caméra, caméra, étrange à dédier. Les Pepper Jacket, Abo et Charlie Packer. Tout à caméra, 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 caméra. C'est un plein de rallye. Et eux sont les sous. Tout à
Angelo veut la paix. Eric Sanzulu veut la paix. Capoche veut la paix. Yeah, Fabio veut la paix. Pato veut la paix. Vipé Willis veut la paix. Alino le King veut la paix. Dito Medjo veut la paix. On y va.
On est de retour sur le plateau de News FM, l'émission micro-ondes. Merci d'être avec nous. Et merci à nos camarades de la CGT sans papier et à qui on souhaite un bon courage parce qu'ils vont en avoir besoin. Mais ils n'en manquent pas. Ils en ont besoin face au parcours de combattants qu'on leur impose à la préfecture, apparemment, et ce n'est pas nouveau. Alors maintenant, on va donner la parole à des représentants d'un collectif et d'une association. Gabonaise.
Et oui, aujourd'hui, on reçoit Stéphane et Dima Zeng qui font partie donc, de l'association des Gabonais de Grenoble et du collectif Pouvoir au Peuple. Donc voilà, ces deux activistes qui vont un peu nous parler de la situation au Gabon. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et avec moi, pour mener l'interview, on retrouve dans les studios Latifa, qui fait partie du FUIQP, du Front Uni des Immigrations et Quartiers Populaires, et du CTNE, Comité Traite Négrière et Esclavage. Salut Latifa.
Bonjour.
Alors attends, donne un micro pour t'entendre.
Bonjour.
Et bon, peut-être vous aurez dès ce bonjour reconnu la voix de Latifa qu'on a déjà eu le bonheur de recevoir sur ce plateau. Alors, bah, le Gabon, on en a récemment entendu parler un peu dans les actualités, même si finalement assez peu, hein, mais parce que là, à la fin de l'été, il y a eu des élections présidentielles et il y a eu la réélection qui a été fortement contestée d'Ali Bongo. Et donc, on va un peu revenir là-dessus avec nos invités, mais on s'est dit que pour comprendre un peu toute cette actualité et tous les enjeux autour de ça, c'était important d'avoir différents éléments, notamment historiques, géopolitiques et tout ça sur le Gabon. Donc bah déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Gabon? Où est-ce que ça se trouve? C'est quoi les richesses de ce pays? C'est quoi les enjeux autour de ça?
Le Gabon, c'est un état de l'Afrique centrale. Donc on va dire que si on regarde bien la carte de l'Afrique, il y a une forme de gâchette juste au niveau de l'Afrique de l'Ouest, donc quand on descend. Et on trouve donc le Gabon qui est en dessous du Cameroun, frontalier également avec la Guinée équatoriale et avec le Congo Brazza. Alors le Gabon, c'est très connu pour le bois. On a à peu près 400 essences de bois différentes, dont on est deuxième producteur de ce qu'on appelle le bois déroulable, donc ce avec quoi on fait les meubles. Également, on a le manganèse, donc on est deuxième producteur à l'heure actuelle de manganèse. On a le pétrole, donc d'énormes réserves de pétrole découvertes dans les années 60, qui sont exploitées depuis lors par successivement l'ancienne société qui a donné naissance à Elf, puis maintenant à Total. Également, on est en réalité, on a 900 minerais qui sont exploitables. Et il y en a peut-être 7 aujourd'hui qui sont réellement exploités. Et le fer fait partie des derniers minerais, même s'il a été découvert au 19e siècle. Mais l'exploitation du fer n'a pas commencé parce qu'il y a des contentions entre les grandes puissances pour l'exploiter. Donc aujourd'hui, le Gabon, c'est d'énormes, énormes réserves en matière d'énergie fossile et de minerais. Et donc, c'est ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'exploitation, ce qui est toujours joué, l'exploitation de ces minerais par soit les grandes puissances dites coloniales de l'époque, soit par les industriels. C'est également 1,8 million habitants. Donc c'est un grand pays, on va dire, en rapport avec sa population. Mais c'est un tout petit pays si on regarde par exemple la France. 1,8 million habitants, c'est le deuxième PIB de la zone France CFA. Donc, et puis en même temps, c'est aussi, enfin, le premier PIB, le deuxième pays le plus endetté en termes de population. Donc en ratio population. Pour résumer, on peut dire qu'on est un pays riche dont les populations sont pauvres.
Et oui, ils ne bénéficient pas du tout de cette richesse au niveau des infrastructures et de ce que les pouvoirs publics peuvent mettre en place aussi. C'est une des choses que les personnes revendiquent et aussi, vous allez nous en reparler tout à l'heure. C'est
exactement, exactement.
Et oui, parce que comme beaucoup de pays dans cette zone, pays très riche au niveau des ressources, mais dont le peuple bénéficie pas. Et bien sûr, ça, c'est aussi lié à l'histoire du Gabon et notamment bah, l'histoire coloniale. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous raconter les différentes étapes
Alors, les étapes. On va dire qu'il y a des étapes clés dans l'histoire du Gabon. D'abord, il faut savoir que le Gabon a été découvert en 1472 par les Portugais. Et le nom Gabon d'aujourd'hui vient du portugais Gabaon. En fait, le Gabon, à l'époque, c'était juste une embouchure qui avait la forme d'une capuche des marins portugais. Donc ils se sont dit, on va appeler ça Gabão. Et ils ont en fait maintenu une espèce de domination sur cette région pendant 4 siècles. Donc ça, consécutivement avec la découverte du Sao Tomé et autres, ils ont installé des comptoirs et ils ont également installé des camps militaires. Voilà, je vais parler d'un camp particulier qui s'appelle Baraka, qui vient également du portugais, qui va jouer un rôle déterminant après, plus tard. Mais enfin bref, donc les Portugais s'installent. Et ensuite, donc, ils font le commerce négrier en passant par le Gabon. Donc, c'est devenu un point de chute et de transit de bateaux négriers. Puis arrivent les Hollandais, les Anglais, commerçants. Et au fur et à mesure, arrivent également les missionnaires européens. Parce que l'idée, c'était de découvrir de nouvelles ressources et puis d'aller à la rencontre de nouvelles populations. Jusqu'en 1839, où un représentant de la France qui s'appelait Boué Villomèze va signer un traité de protectorat avec les chefs locaux. Et à partir de ce moment, le Gabon devient un protectorat français. Puis en 1850, ils deviennent officiellement une colonie. Donc le Gabon n'était pas tout le temps pro-français. D'ailleurs, les chefs commerçaient plus ou moins librement, on va dire entre guillemets, avec les colons. Donc à partir de là, le Gabon devenant colonie française, il y a une administration qui se met en place, comme d'habitude, administration de colonie, dont le but est évidemment d'extraire des ressources. C'était pas forcément de l'installation, mais c'était de l'exploitation. Donc il y a un ensemble d'explorateurs qui vont arriver au Gabon, dont un des plus connus, c'est Duchayu. Il y a Pierre Savoignan de Brazza, Émile Gentil qui va ensuite contribuer à la fondation de Port-Gentil, capitale économique du Gabon aujourd'hui. Et donc voilà, il y a un ensemble d'explorateurs, missionnaires, on va dire aventuriers français et européens qui s'installent au Gabon. Jusque donc aux périodes d'indépendance, on va arriver dans les années 57, 58, 60. Il faut savoir qu'en 58, il y a donc Gaston de Fer qui va promulguer tout ce qui va permettre la décolonisation, plus ou moins, ou l'indépendance des pays africains. Donc en partir de 58, on devient un territoire qui entre en autonomie pendant 2 ans. Et à partir de là, faut choisir les personnes qui vont représenter au mieux l'administration coloniale pour gérer cette indépendance forcée.
Et on s'imagine que l'État français va avoir une partie prenante dans ce choix assez conséquente.
Bah forcément. Donc c'est une période où le général de Gaulle a besoin de, on va dire, asseoir les intérêts stratégiques de la France dans les colonies. Donc l'indépendance, elle était forcée suite d'ailleurs à ce qui s'est passé en Algérie. Donc il fallait absolument donner l'indépendance. Donc on choisit les bonnes personnes. Et à l'époque, ils choisissent donc le président, premier président du Gabon, qui est Léon Ba, en 1960, donc le 17 août 1960, le Gabon devient indépendant officiellement, contre la volonté de Léon Ba, qui voulait plutôt que le Gabon reste un territoire français. Donc il faut le savoir. Donc ça veut dire que déjà, au fondement du Gabon, il y a un petit problème. Mais enfin bref, il avait un opposant historique qui, lui, voulait l'autonomie totale du Gabon, donc l'indépendance, qui s'appelait Jean-Hilaire Obame. Et il y a un conflit historique entre ces deux personnes qui va durer jusqu'à la mort de Léon Ba et donc à la succession à la tête de l'État par Omar Bongo.
Et oui, donc là, c'est l'arrivée d'Omar Bongo ensuite au pouvoir. Donc, il va y rester un certain temps. Aujourd'hui, c'est son fils qui est là. Donc, raconte-nous un peu à quoi ça ressemblait la présidence de Omar Bongo. C'était quoi le régime qu'il a mis en place et les liens avec la France aussi.
Donc, Omar Bongo arrive au pouvoir en 67. Et à l'époque, les colonies françaises sont plus ou moins gérées par ce qu'on a appelé à l'époque la France-Afrique, à la tête de laquelle il y avait le Focard. Donc Focard, il va installer donc ses réseaux dans la plupart des pays africains, dont le Gabon. Et Omar Bongo devient un fer de lance de Focard. Il faut savoir qu'Omar Bongo est issu d'une ethnie minoritaire au Gabon. Donc il n'a pas d'assise sociale. Il a donc besoin, ou le colon lui explique, il a besoin de lui pour garantir son pouvoir. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Son régime est basé sur l'exploitation des ressources par les puissances coloniales. Donc il y a des ententes cordiales entre eux, il y a des accords, etc. Mais surtout, la corruption s'il le faut. Donc corrompre les élites qui sont contre sa manière de gérer, qui est clientéliste. Il va installer ce qu'on appelle aussi la géopolitique à la gabonaise, c'est-à-dire que dans l'État, il y a des postes qui sont réservés à des ethnies. Donc il installe des mini-présidents de la République par province. Il y en a 9 au Gabon. Également, il va utiliser les réseaux ésotériques, sectaires et autres pour asseoir son hégémonie dans ces milieux mystiques. Et donc, ça fait que si vous faites allégeance au président de la République dans les réseaux, vous ne pouvez plus le contester en politique normale. Donc, il va utiliser tout cet ensemble basé évidemment sur la France-Afrique et l'aval de la France pour asseoir son pouvoir de 67 à sa mort en 2009. Et voilà.
Est-ce qu'il y avait de l'opposition contre ce régime ?
Alors oui, il y a eu l'opposition très tôt. Donc avant l'arrivée d'Omar Bongo, il y avait déjà plusieurs partis, dont celui de Jean-Hilaire Obame. Ensuite, Omar Bongo va dissoudre les partis dès qu'il prend le pouvoir, alors qu'il devait juste gérer la transition. À partir de là, s'installe le parti unique de 67 jusqu'en 1981, où il y a eu des révoltes violentes de la part de personnes de l'opposition réclamant le multipartisme. Donc au Gabon, ça commence en 1981 jusqu'en 89-90, conférence nationale, où il est décidé qu'il faut absolument revenir au multipartisme et l'organisation de la première élection dite multipartite au Gabon en 1993.
Et ces élections, c'est toujours une suite d'élections qui sont très contestées, déjà à cette époque-là, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu, déjà tu peux nous parler de la succession d'Omar Bongo? Comment ça se met en place que ce soit son fils Ali qui vienne au pouvoir? Est-ce que ça s'est fait un peu tout seul? Est-ce que là encore il y a eu des contestations?
Alors au Gabon, Omar Bongo a laissé officiellement 56 héritiers, donc c'est un clan. Et ces héritiers-là, en fait, ils sont propriétaires plus ou moins de l'économie gabonaise via notamment une holding qu'ils ont créée qui s'appelle Delta Synergy. Donc, en fait, pour qu'une entreprise, une multinationale ou même des entreprises locales s'installent, il faut absolument que Delta Synergy en prenne des parts. Donc, voilà comment ils font le haro sur l'économie. Ils ont déjà le pouvoir militaire et ils ont le pouvoir politique. Donc, ils neutralisent la société. Et du coup, quand il arrive le moment de la succession, il faut absolument que ça soit un héritier du clan Bongo. Et comme on est dans une société bantoue, l'héritier, c'est le premier garçon. Parce que Annie Bongo a une sœur aînée qui s'appelle Pascaline Ferry Bongo, qui a défrayé récemment la chronique parce qu'on a découvert qu'elle avait importé pour 3000 euros de glace à Gendas. Et qu'elle avait. Enfin, c'était vraiment. Ça nous a fait rigoler. Enfin, bref. Donc, elle est devenue donc une des concurrentes d'Ali Bongo, mais c'est Ali Bongo qui a été choisi et adoubé par Sarkozy à l'époque. D'où aujourd'hui les activistes qui disent à Sarkozy d'aller récupérer son ami Ali Bongo, parce que avant même que la Cour constitutionnelle valide les résultats truqués de l'élection de 2009, Ali Bongo avait déjà été félicité par Sarkozy. Donc, du coup, clairement, on sait aujourd'hui d'ailleurs par Robert Bourgie qui le dit à qui veut l'entendre. Que le choix a été fait à l'Élysée et que lui-même, Robert Bourgie, a été un des porteurs de ce choix-là auprès de la France, comme étant la suite logique de la succession d'Omar Bongo. Donc, ça a été contesté, évidemment, puisqu'il y a eu tricherie. Normalement, celui qui est censé avoir gagné cette élection-là, c'est M. André Mbaobam, et qui était secondé d'ailleurs par M. Mambundu. Mais les deux sont décédés après l'élection.
Très bien. Eh bien, on va faire une petite pause musicale et après, on reprendra un peu ce récit pour arriver jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que, Stéphane, tu peux présenter le morceau qu'on va écouter qui s'appelle, du coup, Libérer la liberté?
Oui, Libérer la liberté, c'est un morceau qui a été fait par Pierre Akendengue. C'est une des figures de la musique gabonaise et africaine en général. Ça fait plus de 60 ans qu'il fait de la musique. Et là, il parle vraiment des mots de la société gabonaise. Dans l'introduction, il résume tout. Eau pour tous, travail pour tous, liberté pour tous. Voilà, donc c'est un peu ça le message qu'on porte aujourd'hui aussi.
Super, merci pour la présentation. On s'écoute, Libérer la liberté.
Santé pour tous, école pour tous, habitat pour tous, à manger pour tous, eau pour tous, électricité pour tous, travail pour tous, la route pour tous. Sécurité pour tous, liberté pour tous.
Libéré,
libéré, libéré la liberté, aïe.
Moi, aïe, Hollanda Perra, aïe, aïe, la liberté, libéré. Faut pas parler, oh, on est fiché, oh. Silence, le moral du cadavre, la paix de cimetière, oh, balango.
Libérer,
libérer la liberté,
libérer,
libérer le peuple fâché, oh,
libérer
la
yo 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 yo. Yo, 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 yo. Libérez,
libérez la liberté.
Libérez, libérez,
liberté de penser.
Libérez, libérez,
liberté de parler, de s'exprimer. Le peuple fâché, oh.
Libérez, libérez,
la donne a changé, oh.
Libéré, libéré,
la roue doit tourner.
Libéré, libéré, la liberté.
Quel sens,
libéré, libéré,
et la liberté.
Quel sens,
libéré,
libéré,
à manger
vertus.
Quel sens,
libéré, libéré,
et la liberté.
Quel sens,
libéré,
libéré,
à manger vertus.
Quel sens,
libéré, libéré,
et la liberté.
News FM, à Grenoble, numéro 1 sur le hip-hop, groove, funk,
monte le son.
Et oui, vous êtes toujours sur News FM, 101.2 FM pour l'émission Micro-ondes. On retrouve nos invités, Stéphane et Dima Zeng, pour parler du Gabon, de la situation actuelle, mais aussi des enjeux historiques, économiques, politiques, etc. Et avec nous, toujours Latifa, pour faire quelques interventions, puisque c'est aussi un sujet qu'elle connaît bien. Dans la chanson qu'on vient d'écouter, ça parle notamment de se libérer de l'armée française, entre autres choses. Et c'est pas un hasard que ces paroles arrivent dans cette chanson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que ces paroles viennent faire là ?
Ben, en fait, effectivement, c'est une bonne question, parce que beaucoup de gens se disent « mais le Gabon, c'est libre depuis 60, indépendance, etc. » Il faut savoir que la problématique, c'est exploiter les ressources du Gabon à moindre coût, aussi longtemps qu'il le faut. Donc, il y a une installation militaire au Gabon depuis les années 60. Donc, c'est les forces françaises. 350 personnes installées, 100 marins et 350 du 6e bataillon d'infanterie marine, 6e BIMA, installés à Libreville depuis lors. Donc, c'est une véritable occupation militaire qui contrôle et qui préserve les intérêts de la France. C'est leur but, c'est leur rôle. Ensuite, on a également... En plus de l'armée, on a également une sorte d'esclavage, mais soumission économique. Donc, parce qu'il y a 120 multinationales françaises installées au Gabon, dans tous les secteurs de l'économie, et 200 PME-PMI. Et enfin, il y a évidemment la soumission politique dont on vient de parler. Aucun président gabonais aujourd'hui ne passe au pouvoir sans l'aval de l'Élysée. Donc, voilà le message de liberté porté par le peuple gabonais. Il nous faut effectivement avoir notre indépendance de manière factuelle.
Merci pour ces précisions. On va revenir un peu du coup à l'actualité sur cette dernière élection qui a eu lieu cet été, qui du coup a fait beaucoup de bruit et continue à avoir des conséquences aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, on va dire en fait que les tensions en fait se faisaient sentir. Les tensions se faisaient sentir en fait depuis un petit moment en fait là. Moi j'étais en fait au Gabon là, en décembre 2015 et on sentait déjà les tensions politiques qui montaient, même au niveau de la population. Donc on voyait aussi que l'économie en fait, était faiblissante au niveau des citoyens. Il y avait beaucoup de problèmes qui apparaissaient. C'est chose qui n'était pas vraiment bien sentie avant et maintenant on le voit de plus en plus. Donc ça fait depuis quelques mois là en fait que c'est devenu de plus en plus dur. Jusque maintenant on a des échos comme quoi ça va pas très bien en fait au niveau économique, niveau politique, même au niveau des gens en fait qui ont peur. Donc pour revenir en fait un peu par rapport à l'actualité, donc par rapport aux élections, donc avant le 27 août pour être exact, il y avait la campagne présidentielle en fait et donc du coup il y avait beaucoup de candidats qui se sont présentés. Parmi eux, c'était Jean Ping qui faisait sa campagne. Lui, en fait, ce qui est intéressant à son niveau, c'est qu'il a réussi en fait, à aller au contact de la population, tant au niveau des villages, tant au niveau des villes. et il a réussi en fait à établir un lien de confiance avec eux, ce qui explique pourquoi en fait il est si favori. Ensuite, il faut savoir un autre truc, c'est que le Parti démocratique du Gabon, donc le PDG, en fait le parti du président Ali Bongo, et a été scindé en deux quelques mois avant l'élection présidentielle. D'où ça explique en fait aussi tous ces impacts en fait actuellement. Donc ça, on a eu en fait le PDG qui est resté tel quel, et il y a eu aussi les ténors du parti qui ont créé le PDG HM. Tout ça pour arriver en fait au comble le 27 août, où en fait tout le monde s'est rendu aux urnes. Et donc là, on a eu la présence des observateurs de différents partis, ainsi que la présence des observateurs internationaux qui ont pu en fait assister au décompte des voix, etc. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait les PV étaient en ligne au fur et à mesure, mais les résultats officiels sont sortis que le 31 le soir. Et à l'annonce des résultats officiellement, donc là où on a donné en fait Ali Bongo vainqueur, directement en fait le QG de Jinping qui avait en fait, il y avait beaucoup de manifestants qui étaient là-bas, directement il a été assailli militairement et par les policiers, par des hélicos et tout ça. Donc du coup il y a eu beaucoup de personnes portées disparues. Le QG lui-même en fait a été pris d'assaut en fait par un hélicoptère. Il y a des témoignages, il y a des preuves, etc. Les ténors de l'opposition ont été gardés otages là-bas pendant plusieurs jours. Et parmi les personnes qui ont été portées disparues, ici à Grenoble, on a une amie qui, elle, une compatriote, pardon, qui elle en fait a perdu son grand frère. On n'avait pas de ses nouvelles jusqu'à 10 jours après le 31 août, où on l'appelle pour lui dire on a trouvé ton frère en fait à la morgue. Et donc, par exemple, ça, c'était inhabituel, ce qui explique pourquoi, en fait, maintenant, la diaspora, en fait, s'est organisée pour qu'on puisse, en fait, faire porter la voix de ceux qui ne peuvent pas, en fait, parler au Gabon. Suite à ces élections donc, qui ont été contestées de partout, parce qu'en fait, surtout, il faut noter que pour la province du président Ali Bongo, en fait, il y a eu un taux de participation qui était tellement important qu'en fait on n'a jamais vu ça ailleurs en fait. Donc du coup pour une petite province, il y a eu à peu près 99,93% de participation, sachant qu'entre eux en fait c'est 95,46% qui ont voté Ali Bongo.
Et les chiffres, ça semble un peu louche.
Voilà. Et les chiffres ont été gonflés, donc les chiffres des votants ont été gonflés, donc il y a des preuves et des preuves, bref. Donc voilà. Donc après on a demandé à Ping de déposer recours à la Cour constitutionnelle, chose qu'il a faite le 8 septembre. On a eu le résultat de la Cour constitutionnelle dans la nuit du vendredi 23 jusqu'au samedi 24, où non seulement on a révoqué le recours, mais en plus on a donné plus de voix à Ali Bongo. Donc là, le résultat officiellement, c'est devenu 50% pour Ali et 24% pour Ping. 47,24% pour Ping. D'où le fait que, en fait, directement après l'annonce des résultats, il y a la population qui a été martyrisée. Donc, en gros, on leur a fait peur avec les mirages qui volaient à basse altitude, avec les militaires qui sont partout. Donc, concrètement, les gens au Gabon ont peur de manifester, ils ne veulent pas sortir, mais ils essaient de continuer la résistance. Et c'est pour ça que nous, la diaspora, on essaie de porter leur voix, en fait. Et donc, Ping, il a été assigné à résidence donc, depuis l'assaut sur son QG jusqu'au 27 octobre, en fait, où il a été libéré. Et donc, du coup, il a pu prendre l'avion et se rendre, en fait, à Paris, où il est actuellement. Et d'ailleurs, en fait, il va faire une intervention de 14h à 18h aujourd'hui.
À Paris,
oui. Moi, je voudrais juste préciser que la présidente de la Cour constitutionnelle, quelque chose qu'il faut savoir, c'est une membre de la famille Bongo. Donc, d'où les résultats, 50%.
OK. Et du coup, la population... au Gabon, fait face à cette répression, cette intimidation, mais aussi à des grosses galères économiques, c'est ce que vous me racontiez tout à l'heure, où là, pour les personnes salariées, retraitées, eh ben, ça devient très compliqué même d'accéder à leurs fonds, puisque c'est un peu la banqueroute, en fait. Les gens ne peuvent plus retirer leur argent. Vous pouvez nous raconter un peu plus comment ça se passe et à quoi c'est dû, si vous arrivez à avoir des éléments là-dessus?
Je pense qu'il faut déjà savoir, avant que je passe la parole aussi à Latifa et à Dima, que en fait le Gabon, depuis 2009, accession d'Ali Bongo au pouvoir, il est très très mal géré. Donc on a eu une conjonction d'éléments qui ont fait que l'économie est à genoux. D'abord la crise pétrolière, donc le PIB du Gabon dépend à 50% du pétrole. Le pétrole était à 100 dollars le baril à l'époque, il est tombé à 40 dollars aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a perdu une grande partie de nos ressources, enfin de nos ressources en termes d'entrée. Et ensuite, à ça s'ajoute le fait qu'Ali Bongo était un très mauvais gestionnaire. On n'a pas besoin d'être pro ou anti Ali Bongo pour le dire. Et les chiffres le montrent. Donc, il y a une explosion de la consommation du budget de l'État sans réduction du train de vie. Et lui-même, il est un de ceux qui contribuent à cela. Donc, notamment les inaugurations de stades, New York Forum for Africa, on invite des tonnes et des tonnes et puis on dépense des tonnes et des tonnes sans qu'il y ait de vrais résultats économiques derrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quasiment en banqueroute et qu'on est obligé d'emprunter chaque semaine. Encore cette semaine, il a demandé 150, je crois, c'est millions, voilà, d'euros d'emprunt. Et en plus, il compte organiser la Coupe d'Afrique des Nations, qui coûtera la bagatelle de 700 millions d'euros, entre 5 et 700 millions d'euros à peu près, qui serait potentiellement préfinancé par Total, qui en est aujourd'hui le financeur exclusif, mais au bénéfice de quoi ils auront une déréduction d'impôts. Donc, ils ne paieront pas leurs impôts futurs, ce qui fait qu'on n'aura pas d'entrée dans le budget. Enfin, on retrouve des aberrations comme ça dans la gestion, ce qui fait le gros souci économique.
D'ailleurs, en fait, la note du Gabon a été dégradée à B+, en fait, il y a quelques jours. Ça, il faut le noter.
Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce système de notation?
C'est le système de notation économique qu'on voit, en fait, un peu partout, qui a, par exemple, dégradé la note de la France il y a 2-3 ans. Ouais. Et maintenant, en fait, eux, ils sont intéressés au cas Gabon après les élections, et ils ont dit, en fait, que le Gabon devrait être dégradé, et donc là, on est passé à B+.
Du coup, ça fait qu'on emprunte à des taux exorbitants, en fait. Plus on est dégradé, plus on emprunte pour un taux très important. Et plus on est déclaré potentiellement insolvable, plus on emprunte encore un taux élevé, plus on a besoin d'argent, c'est un cercle vicieux.
Et d'ailleurs, en fait, les investisseurs ne sont pas très conseillés, en fait, pour aller, en fait, investir dans le pays. C'est ça, concrètement, en fait, on met une ligne rouge en disant, faites attention, donc voilà.
Et Latifa, tu nous racontais tout à l'heure des contacts que tu avais avec des personnes
oui.
au Gabon et qui te faisaient part de...
Oui. Moi, j'ai pas mal d'amis de la belle famille au Gabon. J'ai un ami qui m'a appelé hier soir et qui me parlait un peu de son cas personnel, salarié depuis un an, pas de salaire depuis 6 mois. La maman, pareil aussi, n'a pas sa retraite depuis 6 mois. Et tous les jours, il se présente à la banque postale et tous les jours, c'est le même cinéma, il n'y a pas d'argent. Donc, ça devient... Ils vivent dans des conditions pour un pays riche qui a quand même beaucoup de pétrole. Ils sont pauvres. C'est des situations catastrophiques. On imagine un peu difficilement, quoi, ici en France.
Exact.
Et ouais, du coup, Dima, t'as bien expliqué la difficulté pour des personnes à se mobiliser avec toutes ces problématiques localement et du coup du rôle de la diaspora. Donc peut-être pour finir, parce que malheureusement, le temps imparti s'écoule vite, vous pouvez nous dire un peu... qu'est-ce que vous faites avec cette association des Gabonais de Grenoble et aussi avec le collectif Pouvoir au Peuple, mais peut-être dont vous reviendrez nous parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus.
D'accord. Donc, avec l'association des Gabonais de Grenoble, on a organisé une marche plus des sit-ins afin d'expliquer en fait à la population grenobloise ce qui se passe réellement. Et du coup, on a eu même en fait la présence d'une personne en fait du cabinet du préfet lors de la marche qui nous a accompagnés et qui a voulu enquérir plus et tout ça. Et au niveau du collectif, on est nombreux, en fait, en gros, en dehors de la France. Donc, on essaie de regrouper internationalement la diaspora internationale. Et donc, du coup, on essaie de prévoir des actions, en fait, ou bien, en fait, déjà, on se mutualise au niveau des actions qui se sont passées. Donc, on se mutualise les ressources, les idées, et on essaie de planifier ensemble ce qu'il faut faire. Donc, là, par exemple, il y a des actions qui sont à venir... comme ça.
Oui, et l'idée, juste pour terminer, c'est d'abord résister, c'est important, mais aussi prévoir un système qui va remplacer le système Bongo. Donc on réfléchit à partir de nos expériences et de nos backgrounds sur quel serait le système idéal au niveau du Gabon.
On a un petit appel, on va décrocher, c'est peut-être une question pour vous, voilà, un appel en direct, et puis on se passe juste après le petit morceau que vous nous présenterez. On vous écoute au téléphone si vous avez une question.
J'appelle pour participer, je ne sais pas si c'est l'heure ou pas. On m'a dit 13h30, je suis en avance peut-être.
Un petit peu en avance. Vous voulez parler de quel sujet? Peut-être qu'on peut en parler tout de suite.
En fait, nous, je ne sais pas si vous étiez au courant, on devrait appeler, c'est la 6 Rugée.
D'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah, tant pis, allez, c'est parti, on parle de ce sujet puisque vous appelez, c'est l'occasion.
Allez,
voilà.
Sans transition, on passe à un autre sujet, on va quand même... dire au revoir à nos invités. Merci beaucoup d'être venus. On vous retrouve, ceci dit, peut-être après le coup de fil quand même pour présenter le morceau et voir si vous avez des choses à ajouter, parce que là, on a un peu été coupé dans le fil. Donc, on laisse la parole à la personne au téléphone. On se retrouve tout à l'heure, du coup.
Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il au 6 rue G? On vous écoute.
En fait, le 6 rue G, c'est un bâtiment de lutte et de revendication. Donc, nous sommes l'Assemblée des mal logés et personnes sans logement. Moi, je milite pour le droit au logement.
D'accord.
Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Assemblée des mal logés et sans logement.
Un petit peu, mais peut-être nos auditeurs n'en ont pas trop entendu parler. On vous laisse expliquer de quoi il s'agit.
Et c'était un sujet, c'était un sujet sur lequel on comptait bien revenir lors d'une prochaine émission. Voilà, mais c'est bien que vous le présentiez tout de suite.
Ah oui, oui, voilà. Donc, on a eu à ouvrir ce bâtiment pour revendiquer l'arrêt des expulsions sans solution de logement digne et pérenne et l'ouverture des bâtiments vides parce que les gens vivent dans la rue et meurent dans la rue. L'ouverture des places d'hébergement pour les personnes sans toit. Donc, c'est en gros ce que nous faisons dans l'Assemblée des mal logés. Et on avait prévu de participer à cette émission aujourd'hui. On nous a dit qu'on pouvait appeler à 13h30.
Eh bien, ouais. Allez-y. Hein. Racontez-nous encore, du coup, de comment ça s'organise concrètement, donc, cette Assemblée des mal logés.
On se réunit tous les vendredis à 17h30 à la 6 rue G.
D'accord.
Et le droit au logement particulièrement, lui, se réunit le mercredi à la Maison des Femmes à 17h30 à Saint-Martin-d'Air. Donc, en gros, c'est de ça que nous parlons souvent, l'arrêt des expulsions, le vêtu des bâtiments vides. Et le bâtiment, si, il est pour revendiquer, parce qu'on est en contention avec la mairie, sur ça, en fait, dans un bâtiment de la mairie. Et nous avons pris pour le faire un bâtiment de lutte. Il y a des familles qui y vivent. Oui. Et environ 22 personnes, donc deux familles de 5 enfants.
D'accord.
Qui vivent actuellement. Donc, si vous passez, vous trouverez bien que c'est bien organisé. C'est pas un squat comme les autres. En gros, c'est ça.
Merci pour la promotion du 6 Ruget. Vous disiez qu'il y avait des difficultés avec la mairie. Qu'est-ce qui se passe exactement?
En fait, la mairie, comme c'est, on a ouvert le bâtiment pour faire des revendications, la mairie dit que c'est pas légal. Donc, du coup, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, s'ils vont nous expulser ou pas, mais ils nous ont encore rien dit pour l'instant. Donc, ils ont dit qu'ils vont visiter le bâtiment pour voir si c'est habitable. Et depuis là, ils n'ont pas encore visité. On les attend et on continue dans notre lutte parce qu'on n'a pas de solution pour le moment.
D'accord. Et par rapport aux autres rendez-vous de l'Assemblée des mal logés, j'avais entendu parler de soupe des mal logés il y a 2 semaines, je crois. Est-ce qu'il va y avoir d'autres rendez-vous prévus pour la suite?
On a eu la soupe des mal logés, oui, qui s'est tenue le 15 octobre. C'était
d'accord.
À MC2 Maison de la Culture. Tout le temps, on fait des activités comme ça. Et puis mardi qui vient le 8, on va militer avec le 115 pour leur grève qu'ils organisent. Vous savez bien que le 115, ils sont en colère parce qu'il n'y a plus de place pour loger les gens. L'État dit ça, la mairie dit ça, le conseil dit ça. Chacun dit ce qu'il a dit. Du coup, le 115 en a marre. Du coup, les travailleurs du 115 vont faire une grève parce qu'il y a un conseil qui se tiendra le 9. Donc, c'est on est en train de je ne sais pas comment on dit, on va un peu leur marcher sur les pieds parce qu'ils font leur conseil le 9 et nous, le 8, on se réunit pour crier haut et fort tout ce qu'ils sont en train de manifester, en fait.
D'accord, excellent. Et ben, donc merci beaucoup. Du coup, donc rendez-vous donc pour soutenir la grève du 115 qui a commencé donc par rapport au plan hivernal, c'est ça hein?
Oui, c'est ça exactement. Donc l'Assemblée des mal logés se joint à eux le mardi à la préfecture à 13h45 pour manifester.
Super. Et ben encore un grand merci du coup pour ce petit appel. Voilà, bonne journée et puis donc on se retrouve pour soutenir
Merci.
Le 115 donc mardi prochain.
Merci, à bientôt. Okay. N'hésitez pas à rappeler pour faire passer des informations.
D'accord, merci, au revoir.
Bonne journée, au revoir. Et donc on reprend avec nos associations.
Sans
désolé
transition.
Pour cette interruption, c'est les aléas du direct comme on dit.
Alors oui, je crois que Stéphane, tu étais en train de parler un peu toi du travail spécifique que tu menais au sein de Pouvoir au Peuple.
Oui, en fait, tous ensemble, c'est un collectif de 30 personnes aujourd'hui qui représente à peu près 9 pays. On travaille à construire un système qui devrait remplacer le système Bongo et on est déjà en lien avec beaucoup d'autres initiatives ou comme Podemos par exemple, qu'on a rencontré, Nuit Debout, avec qui on a discuté, pour voir un peu quel système peut le mieux correspondre au Gabon pour intégrer le mieux possible les gens Et on réfléchit également, par exemple, en s'appuyant sur l'exemple ghanéen, à une alternative plus gabonaise et plus centrée peuple gabonais. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les réseaux sociaux, sur la page Pouvoir au Peuple sur Facebook. On a également un Twitter Pouvoir au Peuple. Et puis, on a les Facebook Stéphane Zeng, Nourouda et Dimos DL, sur lesquels pouvez-vous vous renseigner. Voilà.
Merci beaucoup. On espère vous retrouver à l'antenne, parce que ce qu'on se disait, c'est qu'on pouvait faire 10 émissions sur le Gabon. Et je pense qu'en effet, il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés et qui sont vraiment super intéressants, aussi révélateurs de ce que c'est les liens entre la France et l'Afrique, la fameuse France-Afrique qui existe encore aujourd'hui et dont on ne parle pas très souvent. Et pour se quitter, on se quitte en musique sur un morceau qui a été choisi par nos invités. Du coup, le chanteur, c'est Koba Building. Est-ce que vous voulez présenter ce morceau ?
Oui, Koba Building, c'est un artiste R&B gabonais qui est sur la scène depuis à peu près une dizaine d'années. Et aujourd'hui, il est activiste installé à Paris depuis à peu près 2 ans. Il a sorti ce morceau Ojukwu, qui est le surnom donné à Ali Bongo. Et c'est en fait sous forme d'une interpellation directe. Voilà, donc les paroles, elles sont assez claires.
Super, c'est parti pour Ojukwu. Merci, à bientôt.
Merci.
Merci.
Ghetto Bling Soldier.
The Irish.
Ojukwu, tu nous avais promis une meilleure vie. Et Ojukwu, tu as fait couler le sang dans mon pays. Et Ojukwu, tu aurais pu faire mieux que lui. Et Ojukwu, je suis d'une jeunesse qui a tout compris. Tu veux garder le trône juste pour que ta bêtise pérennise. Aucune mention requise, je fais ce que je veux jusqu'à ce que cela se termine. L'objectif est clair, dire le plus de vérité avant qu'on m'élimine. Sous le poids de nos rimes, on va faire écrouler ton régime. Je suis contre la France-Afrique, je suis contre ta politique. Je suis contre tous ceux qui te représentent, je suis contre tes artistes. Ni école, ni logement, ni alcool, ni pansement. Satan au pouvoir dans le crime et le divertissement. Ne vois-tu pas que tu nous diriges dans le fossé? Aujourd'hui ta milice tire sur des gens désarmés. Dis-moi pourquoi t'essayes de t'imposer. Toi-même tu sais qu'on ne t'a jamais voté. Ojukwu, tu nous avais promis une meilleure vie. Et Ojukwu, tu as fait couler le sang dans mon pays. Et Ojukwu, tu aurais pu faire mieux que lui. Et Ojukwu, je suis d'une jeunesse qui a tout compris. On ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, on ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, on ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, on ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu. Derrière les menteurs sont cachés des voleurs sans fierté ni honneur. Mon drapeau tricolore de paix se retrouve entaché par tes horreurs. Le peuple est en deuil, Ojukwu, entends-tu les pleurs?
Entends-tu les pleurs?
La CPI vous guette, Ndami, je crois qu'il est l'heure. Tu appauvris les vieux, tu démembres les mineurs. Pas étonnant que nous fassions les mineurs. Les panthères sont debout, la main sur le cœur. Tu peux tirer sur nous, jamais l'idée ne meurt. Tu serais parti avec dignité, on aurait fermé les yeux sur ton bilan. Tu n'es pas beau, tu n'es pas intelligent. Tu es un très très mauvais dirigeant.
Yeah.
Ne vois-tu pas que tu nous diriges dans le fossé?
Ojukwu, ouais.
Aujourd'hui ta milice tire sur des gens désarmés.
Ojukwu, ouais.
Dis-moi pourquoi t'essayes de t'imposer. Toi-même tu sais qu'on ne t'a jamais voté. Ojukwu, ouais. Tu nous avais promis une meilleure vie. Et Ojukwu, ouais. Tu as fait couler le sang dans mon pays. Et Ojukwu, ouais. Tu aurais pu faire mieux que lui. Et Ojukwu, ouais. Je suis d'une jeunesse qui a tout compris. On ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, on ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, on ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, on ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu,
Ojukwu, Ojukwu, Ojukwu, Ojukwu, Ojukwu, Ojukwu, Flex. Ojukwu, Ojukwu, Shibaman, Flex.
Retour à la table de micro-ondes au studio. Merci donc à nos camarades de l'association et du collectif gabonais pour ces témoignages super intéressants et importants sur les mécanismes actuels de la France-Afrique, la gestion très particulière des ressources du Gabon, ce pays riche où les gens s'appauvrissent, voilà. Donc des conséquences catastrophiques malgré la richesse du pays. Donc nous allons finir cette émission avec des brèves, des petites chroniques et enfin un agenda pour le mois de novembre. Donc on va commencer par un reportage, si j'ai bien compris.
C'est bien ça, ouais. On va maintenant en fait écouter un interview de Rambo qui nous a appelé depuis l'Algérie où il est maintenant. Donc on vous prévient, comme l'interview a été faite par téléphone, peut-être que la qualité du son n'est pas toujours au top. Donc Rambo, vous le connaissez peut-être pour les Grenoblois, il a été expulsé du territoire français cet été, après 15 ans de vie ici, et après deux passages au centre de rétention administrative de Saint-Exupéry et 3 mois de prison. Donc on vous laisse écouter son parcours qu'il raconte.
Je suis entré en France depuis 2001. Le moment où je suis rentré en France, l'Algérie était vraiment un petit chaud. J'avais pas le choix pour rester ici parce qu'en fait, il y a rien. Il y avait des massacres partout. Donc, il m'a parlé de la France. Donc, j'ai dit voilà. Donc, j'ai choisi la France. Donc, après, quand je suis rentré en France, j'ai commencé à contacter les associations. J'ai donné fait des demandes de l'ASD. Donc, voilà. J'ai rencontré le père Fiché, le prêtre qui était dirigeant sans abri. J'ai commencé quand même avec lui, bénévole. Donc c'est lui qui m'a relogé, c'est lui qui m'a aidé, il m'a protégé, franchement, ça m'a fait plaisir, je travaille avec lui. C'est un homme qui représente vraiment l'humanité, c'est quelqu'un qui aide les gens, qui est mort, depuis qu'il est mort, voilà, j'étais tout seul dans la rue. J'avais un psychiatre, voilà, je ne dors pas la nuit, j'avais pas beaucoup de sommeil, donc voilà, du temps je sors, je reste voilà, dans la rue, je vois les gens, je n'ai pas resté tout seul. C'est pour ça que je commençais à faire la danse dans la rue. Bah, la première fois qu'on m'a arrêté, donc, il m'a demandé les papiers. J'ai dit, écoute, moi, ça fait longtemps que je suis là et j'ai pas les papiers. Non, non. Il m'a dit, monsieur, normalement, vous avez l'équipe. J'ai dit, écoute, moi, je savais pas. Donc, il m'a ramené au centre de rétention. Il m'a dit, vous quittez le territoire. J'ai dit, écoute, moi, ça fait 15 ans que je suis là, ils ont dit ça. Donc, ça veut dire quoi, ça? Donc, il m'a ramené au centre de rétention. J'ai resté 43 jours, et dans le conseil, il a donné du passé. Et quand je voulais monter à l'avion, je refusais, je dis voilà, je monte pas à l'avion. Voilà, je pars pas, je préfère le présent, du coup, je pars en Algérie. Comme ça, j'ai rien, j'ai pas de famille, je pars où là-bas? Et voilà, donc, il m'a ramené directement en garde à vue, 48 heures. 48 heures, et après, il m'a ramené devant le juge. Et voilà, grâce à le soutien qu'on m'a fait, on m'a fait tout le grand devoir sur Facebook et tout, ça m'a aidé beaucoup franchement. Et voilà, il m'a donné 3 mois de prison. Je suis rentré en prison et voilà, je suis libre. Et après, dans 1 mois, je voulais aller voir un ami à Chambéry, dans le train, contrôle, donc, dans le contrôle, il m'a dit, monsieur, vous avez la carte d'identité, je dis non, j'ai pas. Il m'a dit, tu viens avec nous parce qu'en fait, on ne te connaît pas, donc voilà. Il dit qu'ils ont mis les ans pour du tout, ils savent que voilà, j'ai les kits. Il m'a dit, monsieur, vous avez les kits, je suis à la préfecture de Grenoble. Je dis oui, mais il m'a relâché, c'est bon, j'ai réglé le problème. Il m'a dit non, le problème, c'est pas réglé, donc t'as toujours le kit. Donc il m'a ramené encore au centre de rétention et j'ai resté là-bas. Ça y est, dans ma tête, j'ai dit, ça y est, je suis bloqué là. Dans ma tête, je suis bloqué. Il ne relâche pas ça. Il faut que je rentre en prison encore. Et donc, voilà, donc, là, j'ai accepté pour partir. Hein. Donc, il m'a dit, tu pars, après tu reviens. Comme ça, le problème, c'est réglé. Ben, franchement, j'ai envie de revenir. Donc, voilà, j'ai envie de le plus vite possible. Franchement, je me trouve tout seul. T'as une mentalité, après tu te trouves dans une autre mentalité, donc voilà, c'est changement de climat, changement des amis, changement de... Donc voilà, ça change tout. Plus qu'il y a des amis là-bas qui me manquent, tu vois. Il y a beaucoup des amis ici, j'ai personne. C'est un peu dur, hein, c'est pas possible. Et franchement, elle me manque trop, Grenoble, tout le monde. Tous les Grenoble, voilà, la vérité, donc j'aime tout le monde. J'aimerais bien un jour, voilà, le plus vite possible, je retourne là-bas, on va commencer à passé ma vie là-bas. Je remercie beaucoup les Grenoblois, surtout les voilà, toutes les associations qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Vous êtes à la top solidarité, franchement. Parce que je ne sais pas vraiment que j'ai passé 15 ans pour rien là-bas. Moi, je suis juste pour les papiers. Juste un beau papier, mon prénom, l'autorisation de travail. Chaque fois, chaque année, je fais une demande. Le plus de séjour dans l'ancienneté, ça veut dire, c'est la loi du 68 qui dit que quelqu'un, un Algérien qui dépasse 10 ans en France, il a le droit d'avoir les papiers. J'ai eu le plus de paye. J'ai travaillé agent sécurité dans Goussport, La Halle. Ça fait 2 ans que je travaille. J'ai fiche de paye et tout. Avant, François Hollande, il a dit que si quelqu'un qui a plus de 5 ans, plus qu'il a, il a travaillé ici en France, il a le droit d'avoir les papiers. Et pourtant, j'ai tous les papiers nécessaires, plus que, voilà, j'ai montré que je suis bien intégré en France, mais là, ils ne m'ont pas une chance.
Donc, au-delà du récit officiel sur le traitement humanitaire des réfugiés qu'on entend en ce moment, il faut aussi donner des gages à ceux qui estiment qu'il y a trop d'immigrés et la répression, elle se fait violente en ce moment. Un exemple à Grenoble, M. Kundela, qui a été envoyé à 3 reprises à Satolas pour le faire valoir son OQTF, l'obligation de quitter le territoire, en direction du Congo, de la RDC, hein, plus exactement le Kivu qui est en guerre et où il risque sa vie. Cette personne a essayé à plusieurs reprises de se débattre, hein, avec un comité de soutien. Les 2 premiers avions n'ont pas pu décoller grâce à la solidarité des passagers. Et ben, il est parti de force en laissant derrière lui une femme avec 4 enfants... et une femme enceinte, voilà, les revers du décor de l'aspect humanitaire, le storytelling qu'on entend en ce moment pour Calais et les centres d'accueil et d'orientation, dont on va vous parler à l'instant.
C'est ça, du coup, comme vous en avez entendu parler, la semaine dernière, c'est organisé la destruction du campement à Calais, et la soi-disant opération humanitaire, ou encore l'opération de mise à l'abri. Mais il parle de mise à l'abri. Mais de qui on cherche à les mettre à l'abri? Est-ce que c'est des soi-disant passeurs ou est-ce que c'est par exemple des policiers? Ces derniers mois, 200 grenades lacrymogènes en moyenne ont été tirées tous les jours sur le bidonville, dont certaines d'ailleurs ont mis le feu à plusieurs cabanes. En plus de ça, il y avait l'utilisation régulière de canons à eau pour mouiller les cabanes. Donc quand on nous parle de mauvaises conditions climatiques, on peut se demander aussi par quoi elles sont causées. Il nous parle aussi d'opérations humanitaires. Mais pourquoi? L'humanitaire, c'est bien pratique, ça évite de se poser d'abord les questions réellement politiques. Pourquoi est-ce que la frontière est toujours fermée entre le Royaume-Uni et la France? Pourquoi les personnes migrantes refusent toujours de rejoindre les structures existantes par peur d'un fichage ou d'un contrôle policier encore plus fort? Et en plus, l'argument humanitaire, ça permet aussi de maintenir les personnes dans une infériorité, d'invisibiliser leur propre volonté et de tout décider à leur place, y compris l'endroit où elles voudraient vivre. Je voulais reprendre ici un communiqué du coup du GISTI, donc qui est un groupe de soutien aux personnes qui migrent, à propos du campement de Paris, mais qui parle aussi de tout ça. Les campements indignes de Paris, comme les jungles de Calais et surtout le littoral du nord français, comme les regroupements à Vintimille et le long de la frontière avec l'Italie, ne sont que les effets de politiques hostiles aux étrangers. Toutes ces nasses où viennent échouer celles et ceux qui ont été désignés comme indésirables sont les symptômes de l'impasse où mènent ces politiques. Dans ce contexte, si on peut certes se réjouir de ce que des personnes puissent dormir quelques nuits au chaud et non sous des ponts ou le long des quais, on voudrait être certain que le projet leur permettra d'être orientés vers de véritables structures d'accueil et d'accéder effectivement à leurs droits. Or, le système d'asile continue d'être caractérisé par des dysfonctionnements parfaitement identifiés, mais jamais résolus. Or, le nombre de places dans les structures ad hoc pour l'accueil des demandeurs d'asile reste largement insuffisant au regard des besoins. Or, les empêchements à la liberté de circuler des migrants et la lutte contre l'immigration dite illégale, dont les mêmes personnes en quête d'asile sont victimes, reste l'alpha et l'oméga des politiques européennes et nationales. Dès lors, comment faire pour orienter vers autre chose que des voies sans issue ? Comment garantir aux personnes accueillies qu'elles resteront libres de déterminer leur choix au sortir de cette soi-disant mise à l'abri ? Faute de changer radicalement ce contexte, on aura abouti, avec le camp de Paris, tout humanitaire qu'il soit, qu'à rendre les migrants moins visibles et à les cacher en périphérie de la ville ou en les contraignant à se disperser, et surtout à fournir à l'administration des moyens de mieux les contrôler, des moyens pour les trier afin d'en expulser le plus possible.
On peut rajouter, pour une petite note d'optimiste là-dedans quand même, c'est qu'avant-hier...
Attends, mais ouais, oui, pardon, vas-y.
Oui, je pensais que tu avais fini, mais voilà, avant-hier, il y a eu une manifestation de soutien par rapport aux immigrés qui sont arrivés à Saint-Martin-d'Air, dans un CAO, ils sont à peu près 80, des Érythréens, des Somaliens, des Soudanais, et il y a eu d'abord un thé avec un échange avec les migrants, et suivi après d'une manifestation de soutien qui a recueilli à peu près au moins 1000 personnes hein, de soutien, tout parti de gauche confondu, et ça fait vraiment plaisir, d'autant plus plaisir que le Front National souhaitait, et n'a pas pu le faire, souhaitait faire au même moment une manifestation hostile aux migrants.
Très bien. Est-ce que, du coup, on passe à la brève suivante ?
Oui. Donc, la brève suivante, à moins que tu voulais intervenir.
Non, mais oui. Je voulais juste dire qu'on était... ça fait plaisir parce qu'on était très nombreux. Une estimation grosse fourchette entre 400, je pense, et 450. On a fait le travail, on a chassé les fachos de nos rues et on a crié haut et fort que la France, elle nous appartient à toutes et tous. Et j'invite encore une fois nos auditrices et nos éditeurs à nous rejoindre dans ces cas de figure-là pour être toujours plus nombreuses et nombreux.
Il y avait d'ailleurs une pancarte qui m'a bien fait rigoler, c'était échange 100 migrants contre un raciste. Voilà.
Yvon, du coup, tu voulais nous parler un peu
oui,
des problématiques
de logement.
Oui, je
voulais parler d'un sujet également pas très, même dramatique, hein, parce que ça s'est passé au mois de septembre. Une famille rome, comme tant d'autres, qui avait été expulsée de différents lieux depuis 2 ans, alors expulsée du bidonville qui s'appelle Esmonin, après le bidonville Flaubert, qui a été logé un temps en hôtel pour finalement être diagnostiqué pas intégrable. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans le jargon des services sociaux, pas intégrable? Ça veut dire pas droit à un toit, qui est pourtant un droit consacré par les lois, par la Constitution. Donc, c'est une famille effectivement condamnée à perpète à la rue. Car un toit, on le sait tous, c'est la première condition pour rebondir socialement. Donc cette famille, après avoir été expulsée d'un hôtel... par le CCAS de Grenoble, avait finalement, et ça malgré des protestations des associations, avait finalement trouvé un refuge dans un squat vétuste, rue des Alliés, à Grenoble, dans un appartement qui appartient à la SDH, un bailleur social. L'une de leurs filles, Mélinda, 14 ans, était scolarisée à la Cité internationale, malgré cette extrême précarité. Alors qu'elle prenait son bain dans une bassine, un fil électrique s'est décroché, Mélinda est morte, électrocutée. Sa famille a accompagné le cercueil en Roumanie et, comble de cynisme, c'est précisément le moment qu'a choisi le préfet pour prendre précipitamment un arrêté d'expulsion, faire évacuer l'immeuble de ses derniers occupants et le murer. Ce même préfet, qui est pourtant légalement chargé de mettre à l'abri les personnes en détresse sociale. Ce même préfet qui envoyait la police charger et brutaliser les militants et militantes venus manifester leur solidarité devant l'immeuble. J'accuse l'État et son représentant de non-assistance à personne en danger, de s'asseoir sur les règles les plus élémentaires de l'humanité, de bafouer la Convention européenne des droits de l'homme, le préambule de la Constitution, le Code d'action sociale qui consacre pourtant le droit à un toit. J'accuse le président du conseil départemental qui oublie ses obligations de protéger l'enfance en danger et abandonne à la rue de nombreuses familles. Il en vient maintenant à réduire leur accompagnement social, malgré les protestations des associations de soutien. Et j'accuse aussi la ville de Grenoble, son CCAS et sa société d'économie mixte, d'aménagement, Inovia, d'avoir expulsé ces familles et tant d'autres, sans solution adaptée, et ce, malgré les protestations explicites des associations solidaires. Chaque année, la situation s'aggrave et l'on compte 600 morts dans la rue, en France, le chiffre réel étant probablement 3 à 4 fois supérieur. Et chaque année, les pouvoirs publics se renvoient la balle. Même si la responsabilité de l'État est première dans cette dimension, le conseil départemental, la métro et les villes qui la composent font vraiment le service minimum. C'est inacceptable et aujourd'hui c'est criminel. On est content du succès de la manifestation dont vous a parlé avant-hier, là, qui s'est passé jeudi, là, de soutien aux migrants. On est aussi heureux d'avoir vu beaucoup d'élus des principales villes de l'agglomération, mais ce serait encore mieux qu'elles joignent les actes à la parole devant les micros, devant les médias. Et c'est loin d'être le cas actuellement.
Une petite intervention pour rappeler qu'en ce moment, aujourd'hui encore, il y a plus de bâtiments vides que de gens à la rue dans la métropole. Voilà. Si vous voulez, il y a déjà une référence à ça qui a été faite pendant l'émission du mois de mai, si vous voulez la réécouter.
Alors, on enchaîne avec moi, comme chaque année à Lannemezan, dans la région de Toulouse. Un rassemblement s'est déroulé devant la prison où est détenu depuis plus de 32 ans Georges Ibrahim Abdallah. Cette année, le 22 octobre dernier, ce sont plus de 400 personnes qui se sont déplacées pour réclamer sa libération. Alors rapidement en intro, Georges Abdallah est un militant libanais chrétien qui s'est pleinement engagé pour la libération de la Palestine colonisée. Il a été accusé et enfermé pour complicité d'assassinat en France, sans aucune preuve directe de sa participation. Il est à ce jour le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Nous avons été, l'équipe de micro-ondes, à Lannemezan, à la rencontre de ces militantes et militants qui ont partagé avec nous leur analyse de la situation. On vous invite à les écouter.
Bonjour, Lydia Zemmour, vous êtes présidente de l'association Euro-Palestine. Pouvez-vous expliquer à nos auditrices et auditeurs qui est Georges Ibrahim Abdallah, s'il vous plaît?
C'est un militant révolutionnaire qui est accusé d'avoir participé, pas directement, mais d'avoir participé à des meurtres, à des assassinats contre un représentant de l'ambassade des États-Unis et un représentant des services secrets israéliens du Mossad. Et il est incarcéré depuis plus de 32 ans maintenant, depuis 1984, et les tribunaux français ont jugé à deux reprises qu'il devait être libéré. Il est libérable depuis 1999 et le gouvernement français, sous la pression des États-Unis et d'Israël, refuse de le libérer.
Pourquoi un événement à Lannemezan et pas forcément à Paris où vous auriez peut-être accès à un plus grand public, pourquoi venir ici en face de la prison?
D'abord, c'est pas fromage ou dessert. Il y a eu une marche à Paris qui a rassemblé plus de 500 personnes il y a quelques mois. Il y a des manifestations dans toutes les villes de France et y compris dans le reste du monde parce que c'est un combat international. Mais une fois par an, on montre que la distance ne fait pas peur puisque le gouvernement a choisi de l'incarcérer dans la plus éloignée de toutes les prisons de France. Il n'y a pas plus loin. Nous sommes à la frontière avec l'Espagne, à Lannemezan, et donc c'est une manière aussi d'essayer de décourager les gens et d'essayer de faire en sorte qu'ils soient oubliés, vu que je pense que si les gens n'en ont jamais entendu parler, c'est bien que les radios radio, les télévisions n'en parlent pas. Et si les médias grand public, disons, n'en parlent pas, nous nous montrons que nous ne baissons pas les bras. Et chaque année, nous sommes plus nombreux encore à venir en car, en train, en avion, en voiture, ici, à la prison de Lannemezan, comme vous voyez.
Bonjour, Kamel Badawi, vous êtes membre du FUIQP, Front Uni des Immigrations et Quartiers Populaires. Vous venez de Paris-Saint-Denis et je voulais savoir pour vous quelle particularité a Georges Ibrahim Abdallah, s'il vous plaît.
Alors, il en a des qualités, Georges Ibrahim Abdallah. La première, c'est que c'est un révolutionnaire très lucide malgré les années et les années de captivité, plus précisément presque 34 ans de captivité. Il garde une lucidité dans ses analyses extraordinaires. Alors, c'est un, pour nous, c'est un héros. Il représente un symbole dans la lutte du peuple palestinien. Voilà. Et c'est un symbole, deuxièmement, c'est un symbole qui représente les prisonniers palestiniens. Et on sait combien l'État sioniste a généralisé, systématisé l'emprisonnement, y compris des enfants. C'est tout un peuple qui est emprisonné. Et lui, comme l'a dit tout à l'heure Khaled Barakat, il a dit « Les prisonniers palestiniens saluent Georges Ibrahim Abdallah pour son combat et sa résistance. » Il n'a jamais renié ses convictions et son acte. C'est un militant anti-impérialiste. C'est un militant de mouvement de libération nationale. C'est aussi un militant anti-capitaliste. Il est en prison parce qu'il fait mal au sionisme, mais il fait mal aussi au capitalisme. Lui, il ne se contente pas de revendiquer des droits, il revendique un changement de la société, un changement révolutionnaire de la société. En ce sens, pour nous, c'est un héros. Il est d'ailleurs président d'honneur du FIQP, le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, une organisation qui existe depuis 2011 et qui a l'ambition politique de mobiliser dans les quartiers, de créer un rapport de force dans les quartiers pour que la colère des quartiers s'exprime et surtout s'organise.
Bah écoutez, je pense que Georges Ibrahim Abdallah, c'est un symbole important des luttes à une époque où, y compris en France et pas simplement dans un certain nombre de dictatures, on reprend tous les droits aux gens, on gouverne à coup de 49-3, on réprime les syndicalistes, on incarcère les gens parce que, je dirais, y compris quand ils n'ont rien fait pour soi-disant outrage, rébellion, etc. Et donc, je crois que de plus en plus, Georges Ibrahim Abdallah sera connu, même s'il ne l'est pas tellement aujourd'hui, parce que justement, il symbolise l'injustice et l'abus de pouvoir.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions.
Et se demander ce qu'on attend. Mais dans le monde, la colère montait. Palestiniens, on a d'occupants. Mais dans le monde, la colère montait. Sauf à colon, foutez le camp. Dans les cellulaires, c'est une honte. Ça fait longtemps, très longtemps, plus de 32 ans. Mais dans le monde, la colère montait.
Vous êtes toujours à l'écoute de News FM 101.2, l'émission Micro-ondes, et on entame la dernière partie d'émission, donc l'agenda. On va commencer cet agenda sur le thème des violences policières, donc thème qui est encore une fois très présent dans l'actualité, déjà localement. On peut rappeler la mort de Jean-Pierre Ferrara, battu par la police à Échirolles le 28 octobre dernier. On peut aussi rappeler Adama Traoré, qui est mort entre les mains de la police le 19 juillet dernier. Et on peut d'ailleurs parler d'une manifestation qui a eu hier à Paris et qui a réuni plus de 2000 personnes. Et voilà, on va rester un peu sur la région parisienne, justement, parce que là, on a un appel en direct d'un collectif de Montreuil qui voulait nous passer une info. Du coup, c'est le collectif 8 juillet. On espère qu'ils sont toujours au téléphone pour nous parler de cet événement qu'ils voulaient annoncer.
On est là.
Bonjour, super. Alors, on vous laisse la parole, allez-y.
Salut tout le monde. Alors, on vous parle pour vous annoncer le procès de trois policiers mis en examen au tribunal de grande instance de Bobigny du 21 au 25 novembre 2016 prochain, à côté de Paris. Les trois policiers, cette fois, sont sur le banc des accusés. Ils seront prévenus parce que le 8 juillet 2009, suite à l'expulsion d'un lieu occupé en plein centre-ville de Montreuil, la clinique, ils nous ont tiré dessus avec leur flashball sur un rassemblement le soir même, 5 personnes ont été touchées au-dessus des épaules et une personne a perdu son œil. On a organisé une manifestation quelques jours après, le 13 juillet, et depuis on s'est pas mal organisé pour les contre-attaquer, battre, et il y a ces 3 policiers mis en examen, qui est une chose plutôt rare.
Alors comme ça a été dit tout à l'heure, donc le procès aura lieu du 21 au 25 novembre au tribunal de grande instance à Daubigny. Il débutera tous les jours à 9h, sauf le mardi où il commencera à 13h30. Et s'il est important d'être nombreux tous les jours de ce procès, nous vous invitons quand même à concentrer nos forces le lundi 21 à l'ouverture du procès à 8h30 et le jeudi 24 pour accompagner les témoins, parce que cette journée sera consacrée à l'audition des témoins de moralité, ceux qui ont perdu des proches, ceux qui ont été blessés par la police, des gens de Calais, des gens de partout où la police sévit.
On vous parle en ce moment de la cantine des Pyrénées dans le 20e arrondissement de Paris, où il y a un repas de soutien au collectif. C'est une des initiatives autour du procès et on espère multiplier les discussions, les rassemblements autour du procès. N'hésitez pas à regarder collectif8juillet.org pour avoir des informations, à nous contacter si vous voulez monter à Paris à ce moment-là. Et on espère être plus nombreux pour voir un peu ces policiers sur le banc des accusés.
Le jeudi 10 novembre, il y aura une réunion d'information publique autour des enjeux du procès à 18h30, salle Franklin, 60 rue de Franklin à Montreuil, mairie de Montreuil, ligne 9. Le mardi 15 novembre, une discussion, Montreuil, 2007-2009, partir de nos histoires pour raconter sur qui a tiré la police le 8 juillet 2009, à 19h30, au Rémouleur, 106 rue Victor Hugo à Bagnolet, métro Robespierre, ligne 9. Le vendredi 18 novembre, il y aura la présentation du livre de Pierre Douillard, un autre blessé par la police et qui a perdu son œil, à Nantes, en 2007. Il présentera son livre, L'arme à l'œil, à 18h, au café Michel Firk, 9 rue François Deberg, à Montreuil, métro Crachavaux. Et comme il a été dit tout à l'heure, il faudra être nombreux. Il faudra être nombreux lundi 21 novembre à 8h30 au tribunal de Bobigny, où il y aura des prises de parole et des distributions de tracts le matin, le midi et le soir. Et aussi le 24 novembre, où les témoins passeront, comme il a été dit tout à l'heure. Mais surtout, il y aura un rassemblement à Montreuil, le mercredi 23 novembre, avec des prises de parole, avec des collectifs en lutte aujourd'hui à Montreuil et des collectifs contre les violences policières ou les violences de la police. À 18h30, à Croix-de-Chavaux, au début de la rue piétonne, se tiendra le rassemblement métro Croix-de-Chavaux, ligne 9.
Voilà, on espère faire de ce procès le procès du flashball et de toutes les nouvelles armes dont la police se donne pour frapper, blesser, mutiler.
Eh ben, merci beaucoup pour tout ça, pour toutes ces infos. Eh ben, on va suivre ça de près. On vous souhaite plein de courage parce que c'est quand même des choses pas évidentes d'assister à un procès pendant toutes ces journées-là. Et du coup, on en reparlera dans l'émission quand, si vous voulez rappeler ou nous on racontera.
Dans les nouvelles, absolument.
Ouais, super.
Et, le site, c'est collectif8juillet.wordpress.com. Et on donnera des nouvelles, des communiqués et tout ça, évidemment.
Merci. Bah, merci beaucoup. À bientôt, alors.
Bientôt.
Et nous, on revient plus localement pour la suite de l'agenda, qui est très fourni. Hein. Il se passe plein de choses, mais bon, c'est bien. Hein. Il y a
presque
plein de
tous
choses
les jours
à quoi il faut réagir, même plusieurs choses par jour. Ben, on va commencer par dès demain, donc lundi 7 novembre, à 17h30, une casserole dans ton conseil. Alors ça, c'est un rassemblement qui est prévu devant l'hôtel de ville de la ville de Grenoble pour manifester bruyamment contre la politique d'austérité qui est menée par la ville. Et voilà, c'est à l'occasion du conseil municipal. Et sur ce sujet-là, on peut signaler qu'il y aura une réunion publique le 10 novembre à la Maison des habitants du Vieux Temple, donc à l'initiative du NPA et de l'Alternative Libertaire. Ensuite, le mardi 8 novembre...
Le 10 novembre, hein, c'est
oui,
bien dit.
Tout à
d'accord,
fait.
Oui. Non, j'étais pas sûr parce que je pensais que tu allais faire du chronologique. Donc
ouais, sauf pour ça. Après le reste, c'est tout chronologique.
Oui,
vous pourrez tourner les pages de votre agenda
okay.
Dans l'ordre. Donc, on revient mardi 8 novembre. Donc, à 14h, il y a un rassemblement en solidarité avec les travailleurs du 115. La personne qui nous a appelé du squat qui se trouve rugé en a parlé tout à l'heure. Donc, en effet, les travailleurs du 115 sont en grève. Et c'est l'occasion de manifester pour les soutenir et aussi pour demander des hébergements dignes et adaptés pour toutes. Devant le bâtiment des archives départementales qui se trouve 1 rue Joseph Chanrion à Grenoble. Et c'est à l'occasion de l'annonce par la DDCS, donc en gros par la préfecture, du plan d'hébergement hivernal. Et qu'on sait déjà qu'il va être insuffisant encore plus que les autres années.
Puisque... Insuffisant et en plus en retard sur les événements puisque la trêve hivernale a commencé.
Oui, mais ça c'est chaque année. Hein, l'hiver ne commence pas pour tout le monde au même moment. Ensuite, toujours mardi à 18h, Eh bien, il va y avoir l'exposé mise en scène de Confrontières, si vous vous en souvenez, si vous aviez déjà entendu cette émission, on les avait invités pour nous parler de cet exposé. C'est sur la gestion des frontières par l'Europe. Donc c'est toujours très intéressant, plein d'informations qu'on a du mal à obtenir ailleurs. Et ça se passera à l'IFTS à Échirolles. Et toujours le même jour, et oui, si vous avez encore de l'énergie, à 19h30.
Surtout que ça se passe en même temps d'ailleurs.
Non, 18h, 19h30. Bon, ah, faudrait peut-être manger un peu sur le débat ou se téléporter, je sais pas. Il y a du coup une soirée qui s'appelle « Comment allumer un feu de société ?». C'est plus ou moins l'idée de faire un bilan et de trouver des perspectives suite au mouvement social contre la loi travail. Et ça, ça se trouve à Antigone, 12 rue des Violettes à Grenoble. Alors, on continue avec le lendemain, évidemment. On ne va pas faire un jour de repos quand même. Donc, mercredi 9 novembre, à partir de 17h30, il y a une manifestation intitulée « Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre, solidarité avec tous les migrants, migrantes ». C'est devant la préfecture, place de Verdun, et je pense que le titre dit très bien de quoi il s'agit.
Et la CGT sans papier sera présente, hein, d'ailleurs, qui était là pendant notre émission tout à l'heure. Ils nous ont donné rendez-vous.
Ensuite, alors là, on se repose quelques jours, mais d'ici là, l'agenda se remplira sans doute. On arrive au 14 novembre, et là, Abdel, je vais peut-être te laisser présenter l'événement organisé par FUIQP-CTNE.
Voilà, Comité Traite Négrière Esclavage. On vous invite nombreuses et nombreux à venir nous rejoindre à la Villeneuve. On organise une soirée solidarité avec Haïti. Il sera question, comme je viens de le dire, de solidarité, mais aussi de décortiquer un petit peu l'information, trier le faux du vrai, etc. Donc, ce sera l'occasion de faire des conférences, des débats, des ateliers, animations. Il y aura un buffet haïtien. Et on finira la soirée en apothéose avec un concert avec Mélopé et DJ Joss. Donc, voilà, venez nous rejoindre et passer un très bon moment avec nous et militer.
Et ça démarre à quelle heure?
Ça démarre à 18h. Merci.
À l'Arlequin?
À l'Arlequin, à la salle polyvalente okay. Des Baladins.
Ah, alors, on a peut-être... non, d'accord. On passe au 25 novembre à 18h30 pour une rencontre-débat intitulée « Migrants, pourquoi partent-ils? Pour quel accueil ou non-accueil ?» Donc, ce sera à partir de 18h30 au Baratin, qui se trouve au patio à l'Arlequin, avec différentes associations présentes, à l'initiative de Nuit Debout, la Sixième. Voilà, il y aura des gens de différents collectifs pour parler de ces questions-là et de collectifs aussi qui réunissent des personnes qui sont touchées par ces situations-là directement. Ensuite, le 27 novembre, il y a un événement qui s'appelle la Société contre l'État. C'est une journée contre les frontières et la répression qui sera à partir de 14h30 au 102 rue d'Alembert à Grenoble, où il y aura des projections, exposés, concerts, repas. Voilà. Et ensuite, où arrivons-nous? Ah oui, festival. Je reviens un peu en arrière. Le 25 novembre, on voulait aussi signaler que c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et voilà, c'est un sujet qui nous tient aussi à cœur à Micro-Ondes. Je crois que localement, il n'y a pas grand-chose de prévu pour l'instant, mais vous pouvez continuer à regarder. Peut-être sur Internet, des choses vont apparaître. Et on arrive au mois de décembre. Le 3 décembre, il se passe à la MC2 les États généraux des migrations qui sont organisés par migrants en Isère. Bon, à notre avis, ça va être assez intéressant d'y aller. Mais aussi avec un regard critique, parce que quand on voit la liste des invités, en tout cas une partie de cette liste, et aussi des partenaires, c'est des personnes dont on parle souvent dans les sujets qu'on traite dans l'émission, mais plutôt comme faisant partie du problème que de la solution. Donc c'est assez questionnant, mais voilà. Allons voir ce qui se dit, et aussi les interpeller s'il y a des choses qui nous choquent. Et ensuite, pour finir, là, je vous laisserai regarder sur Internet pour le programme de 3 festivals qui ont lieu ce mois-ci. Donc, il y a plein de choses qui se passent, plein d'événements divers et variés. Il y a d'une part la Semaine de la Solidarité Internationale. Donc ça, c'est un événement national, peut-être international, comme son nom l'indique. Mais aussi, il se passe beaucoup de choses localement à Grenoble, en Isère. Il y a le FITA, Festival International de Théâtre Action, même chose. Et il y a Migrants Scène, qui est le festival de la CIMAD, qui est aussi national, du 12 novembre au 4 décembre. Et voilà, et pour en finir, on passe à l'agenda radio. Donc, ce soir, on retrouve, comme chaque dimanche, les Nuits du Bled, de 19h à 21h. Et n'oubliez pas, tous les jeudis soirs, de 21h à 22h, il y a Parloir Libre, une émission de Libre Antenne qui a pour but de communiquer avec les personnes incarcérées pour briser l'isolement et parler de ce sujet de la prison dont on ne parle pas assez souvent à notre avis. Voilà, on vous laisse en musique.
Je crois qu'on a, oui, et puis on vous dit au revoir puisque je pense que plus personne
a rien à dire,
non. Et
si,
donc, moi,
si tu permets, voilà. J'aurais peut-être un petit truc à dire rapidement, c'est que par rapport à la journée, par rapport aux femmes et aux violences qu'on leur fait, il faut vraiment se mobiliser, parce que j'ai entendu dire tout à l'heure qu'il n'y avait pas grand-chose d'organisé. Bah, il faut se bouger, parce que c'est une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son mari ou de son conjoint. C'est 200 000 plaintes par an de femmes qui subissent des violences, et on peut multiplier ce chiffre par deux ou trois, parce que souvent ces victimes restent silencieuses. Donc on ne peut pas rester passif devant ce cas de figure. Bah, je vous invite, auditrices et auditeurs, à vous bouger et à faire des choses dans ce sens-là. Voilà.
Et nous vous invitons au premier dimanche 2 décembre pour notre prochaine mission. On a déjà de quoi la remplir. Hein, donc on vous fait des gros bisous et à bientôt.
À bientôt.
Bon dimanche.
Et on se quitte donc sur Les Mains Noires, Amé, Cazet et Zone Libre, voilà, avant de laisser l'antenne. À bientôt.
Aller dans la gueule du loup, vraiment, dans la capitale de l'impérialisme. C'est là que je devais venir, c'est là que l'épreuve décisive devait se passer.
Je suis né juste après l'extinction d'un feu, dont je garde des braises fumantes au creux. De ma gorge, de ma langue, de mes yeux, à ce pays de sable, je n'ai jamais dit adieu. On m'a porté à bout de bras jusqu'ici, dans la poussière d'un septembre après-midi, dans des langes dépliées par le bruit. Dans l'espoir d'entrevoir un peu la vie. Ça ne s'oublie pas un être humain qui n'a plus rien et qui s'arrache pour mettre à table un bout de pain. C'est comme la peur du noir dans une chambre sans fenêtre. C'est comme les mots rares d'un analphabète. Et puis j'ai grandi en apprenant des noms de géants. Pharaon, Fanon, Kateb, Yassine. Comme le trésor de guerre à la fin du film. D'un bout à l'autre de ma trajectoire, l'Algérie s'évade et revient me voir, tout comme je verrai jusqu'à l'ultime soir le pas de mon père et ses mains noires.
Les mains noires, ce sont celles de ma mère, de beaucoup de mes héros, de certains de mes alliés. Quand je quitte ma terre, celles de ma grand-mère qui me font des adieux du haut de son palier. Les mains d'Aimé Césaire qui m'ont hypnotisé quand elles ont saisi la plume et l'encrier. Et puis m'ont rendu la dignité avec le retour au pays natal de son cahier. Les mains de Martin, de Malcolm, de Toussaint, sans oublier le poing de Tommy Smith, de France Fanon, de Raphaël Confiant, de Rosa Parks et d'Angela Davis. Les mains mutilées, empalées, empilées, gangrénées, à genoux, sans raison, enchaînées, qui ont tenu bon même à bout et dominé. Je suis fier d'avoir les mêmes que celles de mes aînés.
Imaginez ce spectacle extraordinaire, 10 volcans à la fois crachant leur lave pour faire la Martinique. C'est fantastique, quelle licence prodigieuse. Ça vous bite les bimbos.
Une colère cosmique.
Ils ont une colère cosmique et tourner la colère créatrice. Elle est créatrice. Ah, nous sommes loin de cette déride sur la mer endormie, c'est beaucoup plus que ça. C'est des termes de colère, c'est des termes exaspérés, c'est des termes de crash qui vomissent et qui vomissent la vie. Et c'est de cela que nous devons être dignes. Cette parcelle créatrice, il faut la recueillir et il faut continuer la première. Il faut la continuer. Et non pas s'endormir dans une sorte d'acceptation et de résignation.
Thank you.
micro-ondes.
Une émission qui vous tient à contre-courant.
Tous les premiers dimanches du mois. On vous parle de sujets brûlants.
Mais c'est pas de réchauffer.
Une émission qui s'attaque au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales. À l'intérieur, pas de la lutte, que de la lutte.
De midi à 14h.
Sur News FM 101.2.